Et bienvenue sur Gameblog pour cette nouvelle saison des podcasts, les amis.
Nouveau générique.
La 14e saison.
Quel
14. Je dis pas de bêtises, hein.
Comme le top.
Un poufi, on est d'accord, hein, c'est ça. Hein. C'est bah oui, ça. Évidemment. On va pas se tromper. Bah voilà, c'est la rentrée, les gars.
Bah on rentre au collège.
Exactement. Ouais.
Ah, bah c'est
non,
vrai.
Non, on termine le collège.
Non, on est au lycée là maintenant, ouais. Ça déconne plus. Non,
c'est 15 ans le lycée.
Non, c'est 15 ans, ouais.
On est en 3ème, bon. Là, on est chez les cools.
Putain, je suis dégoûté, moi.
Sauf si t'as un petit peu d'avance, oui, à 14 ans.
J'ai un emploi du temps de merde, moi, je suis deg.
C'est vrai?
Ouais, moi aussi, j'ai cours le samedi matin, j'ai sport en plus.
Voilà, ça y est, c'est à peine la rentrée que les mecs se plaignent et tout, ça y est, c'est fini.
Et on est en France ou pas?
On veut pas, voilà, exactement. La France, championne du monde de la plainte déposée. Bah voilà, j'espère que tout le monde va bien, comme on dit parfois. Bonjour les amis, c'est ça? Tout le monde, tous les amis.
J'espère que vous allez bien.
Là, exactement.
Bonsoir en l'occurrence.
Eh bien aujourd'hui pour cette ce podcast de rentrée, on accueille évidemment les piliers avec plumes, n'est-ce
les
pas?
Les piliers. Ok.
Ça va, c'est bien passé.
C'est dommage, j'ai pas Angèle parce qu'il y a un pilier de barre en plus.
Exactement. Donc oui. Plumes, Thomas.
Thomas ouais, pilier pour le coup.
Toujours aussi roux. Et Johnny One, regardez. Hop,
salut.
Voilà, c'est ce que j'attendais en fait, qu'il fasse son imitation. Romain qui revient du TGS il y a à peu près 2 heures.
Un petit peu plus, mais je suis toujours jetlagué, fidèle à moi-même.
Voilà, exactement. Et Poufy à Technoc, n'est-ce pas, à Technicas.
Ah, c'est lui Poufy.
C'est lui le mec qui est là-bas avec le truc sur les oreilles bizarre, là, n'est-ce pas. Donc voilà, bah écoutez, voilà, c'est reparti pour un tour, pour une nouvelle saison. Et on espère que cette saison va vous plaire. On aura des nouveautés à vous montrer, à balancer dans le courant des prochaines semaines. On va pas tout faire tout de suite parce que j'ai pas envie de vous promettre des choses qui vont tomber tout de suite. Voilà, exactement.
Donc, t'imagines une campagne politique comme ça?
Non, non.
On va faire des choses, mais on peut pas trop
mais
vous dire quand.
Mais on vous dira rien.
Bah, en même temps, ce sera honnête.
Bah, exactement. Ouais. Moi, je préfère être honnête en disant voilà, écoutez, vous savez, à Gameblog, on n'est pas très, très, très nombreux, donc il faut du temps pour sortir des trucs.
On a des
trucs.
Idées, on a de l'envie, mais
exactement.
On n'a pas beaucoup de temps.
Voilà,
ni de
pas
pétrole.
Beaucoup de temps. Ni de pétrole non plus, exactement. Mais on prépare des choses, ne vous inquiétez pas là-dessus. Alors, pour ce podcast de rentrée, donc le podcast 504, précisément. Eh bien, il y aura nos rubriques win-fail habituelles. 10 ans sur Gameblog, que s'est-il passé il y a 10 ans, n'est-ce pas? Ça, on ne sait toujours pas. Mais Thomas va nous dire ça tout à l'heure, normalement.
Parce que j'étais là.
Et bien sûr, le plus gros du truc, le plus gros thème, c'est le TGS 2019 que Romain a couvert avec Eurydice sur place là-bas et qui va nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, l'ambiance, les jeux, tout ça. Il y a même Plume et Johnny One qui ont joué à des jeux TGS, mais ici. Mm. Comme quoi, tous
délocalisés. Et même moi, un jeu avant.
Et toi, un jeu avant, bien sûr, évidemment. Avec le fameux embargo qui a été pété!
Pas par nous!
Et pas respecté. Non, pas par nous, bien sûr, parce que nous, on est toujours les abrutis de service.
Les dindons de la farce.
Les dindons de la sefar, ouais, exactement. Donc, je disais, donc, le premier thème, TGS 2019. Le thème 2, ça va être des premiers jeux de la rentrée. Il y a pas mal de choses.
Je le sens tendu à côté de
moi. Non, pas
je
du tout.
Prêt, je suis la cocotte minute.
Tu vas t'en prendre une avant la fin du podcast.
Je recule progressivement comme ça.
Je parle plus de l'embargo pété. On s'en fout, c'est pas grave, c'est de l'histoire ancienne maintenant. Donc voilà, le thème 2, ça sera sur les jeux de la rentrée. Il y aura pas mal de choses à dire sur certaines choses, certains jeux, pardon. Mais on ira assez vite parce que pourquoi on ira assez vite?
On veut pas vous saouler.
Voilà, exactement.
On va pas vous saouler parce qu'en fait, il y en a trop.
Exactement. Il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc
c'est surtout pour démontrer qu'il y a eu beaucoup beaucoup trop de jeux déjà depuis les 15 premiers jours de la rentrée.
Déjà
mais c'est fini les périodes creuses. Hein. Maintenant, ouais, c'est.
Ah bah ça on le sait depuis quelques temps déjà.
Surtout que là, on a déjà Noël en point de mire, donc.
Il y a que nos estomacs qui sont creux finalement.
Non, il y a peut-être
nos portefeuilles.
Nos portefeuilles, oui, sont très creux.
Oui, ça je te confirme.
Il y a un sacré écho dans mon portefeuille.
Ouais, exactement. Donc voilà, puis les rubriques habituelles, hein, l'anniversaire, le hors-jeu à la fin, et puis voilà, tout ça. Bah écoutez, les gars, c'est parti. Hein,
c'est reparti comme en 14.
Exactement.
Whiz.
Et on commence par le win, n'est-ce pas? Qui s'occupe du win? C'est toi, Plume.
Bah oui, c'est moi, absolument. Ouais. Bah,
j'aime beaucoup le win.
C'est même écrit sur tes notes.
C'est vrai?
Ouais, je te
dis. Mais tu sais que je vois plus rien. T'as mis le typo. T'as mis le typo
moins 2. C'est écrit tout petit.
J'ai mis en 8. Encore, rassurez-vous.
J'ai mis en 8 pour que ça tienne sur une feuille.
Oui, c'est vrai.
Pour être écologique. Et ça tombe bien parce qu'on va parler d'écologie.
C'est vrai?
Avec ce win. Exactement.
Cette introduction intense.
T'as vu un peu les transitions, moi, j'assure. Alors, pourquoi on va parler d'écologie? Parce qu'en fait, ce mardi, Football Manager, par la voix du directeur du studio Sports Interactive, Miles Jacobson, qui n'est pas le dernier fan de foot sur Terre, ils ont juste fait une annonce assez surprenante concernant le packaging des éditions physiques de Football Manager 2020, qui arrivera début novembre. Ils ont pris une décision qui va pas sans conséquence d'ailleurs au niveau financier pour eux, hein, parce que ça leur coûtera environ 30% plus cher pour produire des versions boîte de Football Manager 2020. Mais c'est une décision qui leur tenait à cœur, c'est une décision de faire une boîte justement responsable écologiquement. C'est-à-dire que maintenant, Football Manager arrivera avec une boîte en carton recyclé entièrement. Donc c'est déjà une belle chose en soi. Le tout sera imprimé avec de l'encre végétale, ce qui est encore une fois quelque chose de plutôt bien. Et le film qui est autour du jeu, de la boîte du jeu, sera en parce qu'il faut retenir le mot, c'est du polyéthylène de basse densité, donc un film qui lui aussi vous pouvez même le manger si vous voulez, si ça vous fait
plaisir.
T'es
sûr de ça? Je suis pas sûr.
Je crois que si, en fait. Et donc du coup, à part le CD,
on le fera
qui,
quand
est,
on recevra,
plus, qui est plus difficile à recycler,
à part le CD qui est ultra polluant,
voilà, qui est beaucoup plus polluant, qui est plus difficile à recycler, tout le reste est plutôt éco-responsable.
C'est plutôt bien vu.
C'est un geste qu'on aimerait bien voir chez la plupart des éditeurs, parce que
c'est ce qu'il dit d'ailleurs, hein, allez-y, que tout le monde s'y mette, tout le monde peut le faire.
Ça devrait être la norme, parce que quand on voit les boîtes en plastique énormes qu'on se tape sur Xbox One ou sur PS4, et je parle pas des boîtiers Vita à l'époque ou même sur Switch, des boîtes qui sont énormes, qui en plus font du poids supplémentaire, du transport supplémentaire, donc forcément en termes d'empreinte carbone, c'est encore plus aussi. Tout ça pour des petites cartouches ou des CD. Le choix du boîtier en carton recyclable, enfin recyclé, est quand même autrement plus intéressant. Alors oui, ça coûte plus cher,
mais d'ailleurs c'est ce qu'il disait, il se rattrape sur justement le transport parce que c'est moins lourd et sur effectivement l'empreinte carbone.
Et au Japon, il sera livré dans 4 sacs plastiques.
Après, les versions physiques, elles ont plutôt tendance à disparaître petit à petit, donc quelque part PC, ça encore risque plus d'équilibrer
sur PC, mais après game. Football Manager cartonne à tous les niveaux de toute façon, que ce soit en physique ou en dématérialisé, donc c'est une très très bonne chose, et maintenant on attend que tout le monde s'y mette.
Exactement. Et à commencer par nous. D'ailleurs, on va tout arracher, tout enlever. Là, tous les goodies, on va les jeter. On va les recycler.
Je vais refaire la statue de Marcus Fenix en papier mâché, je pense.
Ça, putain, je te souhaite bon courage.
Ouais. À dans 2 ans.
Exactement. Et bien, merci pour ce win, Plume. Un truc plutôt positif, ma foi.
Ça change.
Forcément, parce que c'est un win. Ou pas, d'ailleurs. Et on va parler du fail maintenant, tout de suite, avec Thomas qui va nous raconter pourquoi le fail de la semaine, c'est ça.
Ouais.
Et pas autre chose.
Rien ne va plus, les enfants, pour le 3.
C'est vrai.
Le salon de Los Angeles va peut-être changer de forme dès l'édition 2020, donc l'édition de juin prochain, puisque le site Game Daily a récupéré en fait un mail qui est parti de l'ESA, donc l'organisateur du salon, auprès des lobbyistes de l'industrie. Et il y avait tout un tas en fait de pistes qui sont envisagées pour la prochaine édition de l'E3, parmi lesquelles le fait d'en faire un festival, non plus un salon, mais un festival avec des influenceurs, avec des gens grassement payés en fait pour venir faire
tout de suite
de la promotion. Il y avait quelques pistes en fait qui étaient envisagées. C'était de, par exemple, faire venir un joueur des Lakers pour animer et présenter un nouveau jeu de basket, ou faire venir des acteurs, des gens célèbres pour faire un espèce de tournoi sur, je sais pas, un jeu de versus fighting ou des choses comme ça.
Tu l'as mis la détresse sur mon visage.
Ouais, je l'ai bien vu. Ouais. Et alors, tiens-toi bien, parce que pour faire venir tout ce petit monde, évidemment, faut du pognon, mais faut de la place. Donc en fait, le All West risque d'être réorganisé en fait complètement pour qu'il y ait des îlots, des endroits justement pour les influenceurs et pour les guests qui vont du coup animer comme ça des pastilles,
des panels,
des trucs un peu magiques et plein de paillettes. Et forcément ça va changer la phase de l'E3 si tel est le cas, d'autant plus que l'idée c'est de faire venir un peu plus de monde, donc il y aurait 10 000 billets supplémentaires qui seraient mis en vente pour faire venir un peu plus de public. On est en train de dévier d'un salon professionnel vers un salon de jeux vidéo consumer assez classique.
C'est pour ça qu'ils veulent s'appeler ça festival, hein.
Voilà, comme tous ceux qu'on connaît. Donc l'E3 pourrait perdre un petit peu de sa superbe dès l'année prochaine. Et cerise sur le gâteau, l'idée ce serait aussi de rémunérer certains médias pour dire que du bien évidemment de certains jeux.
C'est ça le pire en fait.
Et ça fait partie des éléments de langage. Le but est de créer des rendez-vous exclusifs pour certains privilégiés afin de faire du buzz. Et oui, les enfants.
Donc, mais il n'y a pas de question de rémunération là.
Il y a des médias qui seraient payés justement pour mettre en avant certains contenus.
On te paye et tu dis du bien.
Qui du coup serait
de
évidemment contrôlé. Le contenu serait contrôlé par l'ESA avant que ça sorte.
C'est plus du journalisme.
Non, c'est plus du journalisme.
C'est de la publicité.
C'est de l'influence finalement.
Exactement.
Si on veut que notre portefeuille soit moins creux.
Mais moi, ce qui me fait peur,
on n'est pas influenceur, donc on n'est pas.
Le côté, on fait venir des influenceurs avec des événements et tout, parce que un truc qui m'insupporte avec les influenceurs, c'est qu'ils gueulent tout le temps. C'est vraiment le truc qui me gêne le plus.
Pas tous, ça dépend lesquels, mais
un salon où il y a,
qui
y a tous les stands qui se gueulent dessus mutuellement, tu sais.
T'as vu vol au-dessus d'un nid coucou?
C'est, oui, je l'ai vu. Ouais. C'est,
je
c'est,
l'ai vu 5 fois, donc ça va.
Cette transformation me surprend pas, parce que le 3 avait clairement besoin de changer de formule pour rester.
Oui, pour toi, ils essaient de toute façon, on va bien voir ce que ça va donner.
Mais le côté très influenceur, et en plus, ils parlent d'un Media Day. J'ai vu, il y aurait une journée réservée aux médias, justement. Mais enfin, nous, le 3. C'est dur, enfin le salon lui-même dure 3 jours,
3 jours,
et on a des rendez-vous toute la journée sur les 3 jours. Alors s'ils nous réservent plus qu'une journée et que les 2 autres jours on est obligé de se taper la foule pour aller à nos rendez-vous, ça va être l'enfer. Et je veux pas faire mon capricieux genre
c'était mieux avant, tout ça.
Favorisé, etc. C'est juste que nous on y va pour bosser. Et c'est vrai que,
et si que on ils doit, pour être
parce que le convention center, bah Thomas peut en attester, bah vous pouvez tous en attester.
Oui, oui, on l'a
tous. Il est pas immense, hein. C'est pas gigantesque.
Ah, c'est pas que le Messe, non, ça c'est certain.
Et donc ouais, c'est.
Ça reste un petit
c'est
peu
pour
serré.
Ça aussi que pendant plusieurs années, il y avait des débats pour savoir s'il fallait quitter Los Angeles ou pas. Et s'ils veulent faire ça. Et faire un salon full consumer, autant aller ailleurs, et là tu ouvres complètement les vannes.
Ah bah qu'ils aillent à San Diego, hein,
ouais, au
convention center de San Diego.
Las Vegas, y a plein de place.
T'as genre 2 km de long pour tous les halls. Enfin, c'est.
Alors pour l'instant, on est entre deux, hein. Ils parlent pas d'en faire un salon purement consumer, ah bah, mais on sent que la transition commence justement à être entamée par le SA.
S'ils veulent en faire un salon consumer, il faut avoir les stats pour le faire. Briller ensuite, mais malheureusement le convention center, je pense même d'un point de vue sécuritaire, t'as des limites en termes de personnes que tu peux
voilà,
de personnes que tu peux faire rentrer.
Mais de toute façon,
alors la nouvelle génération de consoles plus changement de formule et tout, je pense qu'on va s'amuser.
Moi je vois mal
prochaine.
Avec Justin nous présenter la PS5 quand même, mais bon on sait jamais. Hein.
Ouais.
Avec Justin.
Clair. Ouais.
Bah écoute, on verra bien. Hein.
Réponse en juin prochain.
Exactement. Mais par contre, si effectivement,
on aura certainement des réponses avant,
si effectivement il y a un retour négatif derrière, parce que je sais pas, sur la toile, on se rend compte que tel influenceur a dit du bien de ce jeu-là, alors que c'est une catastrophe absolue.
Il y aura
et on sait qu'il a été
oublié
par ça. Bah voilà, ça va se retourner contre eux aussi.
C'est déjà le cas et tout le monde s'en fout.
Les gens s'en foutent déjà, parce que tous les influenceurs, enfin les plus gros, on sait qu'ils communiquent pas sur tel jeu juste parce qu'ils ont envie d'en parler. Hein. C'est maintenant tout se finance et tout se rémunère.
Non, c'est sûr, mais ça peut être vite pointé du doigt aussi, et ça peut faire du mal aussi à l'éditeur et aux gens en question si vraiment. On sent que ça va beaucoup trop loin, quoi. Enfin, bref, de toute façon, on verra. Ça se trouve, ça va être une bonne idée. On n'en sait rien. Hein.
Parce que ça se rend même pas.
Ça, ouais.
À titre purement égoïste, je suis content d'avoir eu l'opportunité de voir le salon à l'ancienne.
Tel qu'il était avant. Ouais.
Attends, on verra. On verra l'année prochaine.
On verra parce ça, que messieurs. C'est une piste pour l'instant.
Exactement.
Et pas une certitude.
Ouais. Tout à fait. Eh bien, parfait. Et tout de suite, il y a 10 ans sur Gameblog. Et bien il y a 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous en souvenez ou pas?
Attends, 2009.
Ouais, apparemment il y a une refonte d'un truc, je sais pas quoi, j'ai pas trop compris.
Ça c'était la V4, non pas la V4.
Non pas la V4, c'est dans 5 ans ça.
Non, le 9 septembre 2009, donc le 999, Gameblog nous réservait une surprise,
c'est
puisque c'était, si je ne dis pas de bêtises, la première refonte du site
oui,
depuis son lancement.
Je sais plus.
Donc une refonte entière de Gameblog.fr.
Oui, en fait à ce niveau-là, oui, c'était une grosse refonte, c'était pas la première mais...
Qui faisait peau neuve. Pour
c'est
le
à
coup.
Ce moment-là que les petits personnages de jeux vidéo en fond ont disparu
Oui, je crois, ouais. Il me semble. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble.
Moi, j'aimais bien le design original. Il
oui.
était... Mais c'est vrai qu'il faisait plus.
Il faisait un petit peu
à
l'ancienne.
Il faisait plus amateur que,
voilà,
que site
ça.
Vraiment
exactement.
D'information. Avec les logos qui changeaient, tu sais, inspirés des différents jeux et
ouais,
tout,
ouais,
c'était
tout
rigolo. Mais bon, là, en l'occurrence, c'est pas du tout ça.
Alors là, c'était, bah, j'imagine, la V2, mon cher Traz, que vous aviez
oui,
lancé
je crois que
c'était
ça, ouais.
pour la rentrée. Donc, avec évidemment bah, plein de nouveautés, c'était aussi la saison 3 des podcasts qui reprenait. Le TGS, évidemment, en parallèle. Bref, voilà, c'était un premier vent de nouveautés qui soufflait sur Gameblog. Mm. Et vous aviez pris soin de teaser, justement, la surprise quelques jours avant. On savait pas trop ce qu'allait arriver. Et puis bah, au
oui.
matin du 9 septembre,
oui,
boum,
ça va,
tu prends ça dans la gueule.
Moi je me rappelle que quand je l'ai vu, je me suis dit putain, c'est carrément plus posé, plus mature, plus clair.
Et en fait, non.
Ouais, vraiment, c'est les choses qui me sont venues vraiment immédiatement à l'esprit. Hein.
En fait, c'est le bordel.
Salut, non,
merci. Je me demande si c'est mieux de, dire, de rien dire à personne et de balancer la nouvelle version par surprise ou de faire une annonce 2 ans plus tôt et ensuite de continuer de l'attendre.
On dira rien sur la V4. Sur la V4. Elle arrivera quand elle arrivera, comme on dit.
Donc voilà, c'était un
parfait,
petit clin d'œil
Thomas.
À la transformation de Gameblog.
Exactement.
Qui se faisait là il y a 10 ans.
Bah, c'était une grosse étape
déjà.
Quand même, mine de rien. Donc voilà.
Ouais, donc c'est un il y a 10 ans assez bref cette semaine, mais c'est parce qu'on reprend. Donc
exactement.
Oui, l'actualité était chargée. C'était plus un petit clin d'œil.
C'est le diesel des podcasts.
Et on en vient maintenant au thème number one de ce podcast 504. Qui est évidemment le TGS, hein, qui s'est terminé il n'y a pas très très longtemps. Et, auquel,
c'est le Toulouse Game Show, c'est ça ?
Exactement. auquel Thomas a assisté.
Non.
Thomas, pardon. Romain. Mais non, mais c'est à cause de lui, parce qu'il parle en même temps, ce con. Hein. Auquel Romain a assisté en compagnie de Rudy sur place, évidemment.
Ce qu'il faut savoir que Traz, un de ses petits jeux pendant la journée, c'est ouais. De dire quand t'as Thomas Mahut. Quant à Romain Pilon, voilà, dans sa tête, en fait, on est une entité unique.
Alors que moi, il m'appelle juste fils de chien, hein, vous aurez remarqué. Hein. Ça, c'est quand même.
Mais toi, t'es un
vous
privilégié.
Non, c'est vous qui êtes privilégié, je pense, à ce niveau-là. Hein.
Exact, tout à fait.
Quant à Thomas Mahut.
Voilà, quant à Romain Pilon, bah, écoute, tu vas nous parler du TGS, du coup, c'est parfait.
Ben oui, avec plaisir. Avec plaisir. Ben,
alors, c'était éclaté, c'était bien la fête.
Alors, c'était mon premier sur place.
Hein, bon, t'as bossé quand même. Hein,
jusqu'à présent, moi, le TGS, je le couvrais depuis Paris, je relayais les annonces, les trucs comme ça. Et donc, j'ai pu découvrir le salon tel qu'il est sur place.
De
et franchement, c'est super différent de l'E3 ou de la Paris Games Week.
Est-ce que c'est bien organisé déjà? Première question.
Alors, c'est différent parce que tu vois, il faut, quand t'es média. Alors, ce qu'il faut se dire aussi, qu'il y a les deux premières journées, c'est les journées professionnelles, mais que le contrôle pour les accréditations est beaucoup plus tranquille qu'à l'E3, par exemple. Tu n'as pas d'article à montrer ou de choses comme ça, ce qui fait qu'il y a énormément de gens qui ont des badges pro qui ne sont clairement pas professionnels, tu vois. Mais en première différence, quand tu es de la presse, c'est qu'il faut aller sur chaque stand pour demander l'autorisation de filmer, par exemple. Ce qui fait que c'est pour ça qu'on voit souvent sur les plateaux qu'on a des autocollants sur les manches, etc. Mmh. C'est que si on commence à tourner un plateau sans autorisation, tout de suite ils vont débouler et nous dire non, vous avez pas le droit. Autre différence avec par exemple un E3, c'est qu'à l'E3 on a souvent plein de rendez-vous. Au TGS, on n'en a pas beaucoup, ce qui fait que pour la plupart des jeux, bah, il faut faire la queue. Mmh. Donc ça limite forcément le nombre de jeux que tu vas avoir dans une journée.
Et t'as pas forcément de fast pass pour tous les jeux.
Non, pour certains on en a, mais pour la plupart non, parce qu'en fait, comme c'est souvent les RP japonais, bah, ils s'occupent des médias japonais, voire asiatiques, et pas trop de nous. Voilà. Mmh. Donc c'est pour ça que je remercie encore Chris et toute l'équipe de Français qui squattent la file d'attente avant l'ouverture parmi les premiers et qui nous laissent venir nous incruster avec eux, parce que ça nous permet d'être parmi la première dizaine de personnes à rentrer et de rusher sur les plus gros jeux tout de suite. C'est pour ça que mon premier jeu, c'était Yakuza 7, un des plus demandés et attendus du salon, et je l'ai fait tout de suite sans faire la queue grâce à nos amis français qui sont sur place.
T'as fait ton français, quoi. T'as gagné tout le monde.
C'est ce que j'allais dire. J'étais en train de me dire, mais attends, mais du coup, t'es passé devant tout le monde. Ils ont rien dit, les Japonais.
Non, parce qu'ils râlent.
Même s'ils t'attendaient.
Ils le font tous les ans, donc c'est assez habituel. Et là, les Français râlaient un peu parce qu'il y a quelques Chinois qui étaient avant eux dans la. Avant eux dans
les
la
Chinois, encore plus forts que les Français.
Mais bon, ouais, donc, c'est un salon dans lequel tu passes quand même pas mal de temps à faire la queue, mine de rien.
Tu fais pas mal la queue. Mais pas du tout la même ambiance. Je trouve.
Ça reste calme et.
Ouais,
et voilà.
c'est discipliné
et serein, quoi.
Et je trouve les comment dire nos interlocuteurs professionnels beaucoup plus sereins et qu'à l'E3 par exemple. Et qu'à l'E3 c'est vraiment la machine marketing et les push the boundaries, etc. Et là quand tu trouves quelqu'un avec qui parler, c'est plus cool, quoi.
D'accord.
J'ai préféré à ce niveau-là. Et aussi c'est un salon qui est dans une autre on va dire dans une autre époque dans sa gestion de sa manière de faire la promotion des jeux. Par exemple, on se souvient des babes de l'E3 qui ont disparu il y a quelques années. Et ben au Japon, elles sont encore bel et bien là, hein. Et certaines, enfin c'était courageux de leur part de s'exposer de cette manière-là, je trouve, pendant un salon.
Mais parce que les Japonais sont beaucoup moins relous avec ça, justement. Tu vas avoir moins d'emmerdeurs qui vont aller les reluquer.
Oui, je pense que c'est ça
aussi. Ah bah il les reluque, il est prêt à
venir. Oui, il reste poli quand même.
Mais, ouais,
mais les contacts physiques sont peut-être beaucoup moins.
Il n'y a pas de contact.
Enfin, je pense qu'il n'y en a pas.
Non, il n'y a pas.
Alors que les Occidentaux, ils voient une babe, c'est.
Il n'y a pas de contact physique. Vous vous rappelez pas d'une photo qui a circulé à une époque avec des babes
au Japon?
Ouais, non, ici, dans la rédaction. Enfin, bref.
Bon, non, mais des babes japonaises, tu veux dire?
Ouais, ouais.
Ah non, ça me dit rien du tout.
C'est vrai. Ouais, pourtant, il y a du dossier. Bref.
Bah écoute, tu nous diras ça tout à l'heure, Thomas.
Tout ça pour dire que oui, il y a déjà beaucoup de monde dès les deux premiers jours pro, mais alors le week-end ensuite,
ça, c'est
totalement impraticable.
Parce qu'il n'est pas gigantesque en plus, le salon. En taille, je veux dire.
En fait, il est très grand. Les halls sont très grands, okay. Mais ils sont pas pleins à craquer de stands, etc. Ce qui fait que les allées entre, alors que tu vois le 3 parfois les couloirs sont très étroits.
Oui, ça c'est.
C'est
ça,
bah, le convention center une fois encore est tout petit.
T'as plutôt des boulevards en
voilà,
fait.
Voilà, là
TGS,
ce sont de très grandes allées.
D'accord.
Et donc il y a de la place pour circuler. En tout cas le jeudi et le vendredi. Le week-end là c'est plus le c'est plus la même chose. Mais qu'est-ce que
ça c'est
qu'est-ce
pour l'ambiance donc c'est.
Ouais
c'est,
pour
c'est
en fait l'ambiance est agréable. C'était cool. Ça change en fait. C'est ça.
Il y a pas de vol, il y a pas de casse, les mecs se tapent pas dessus.
Ah non, il y a pas de non, c'est pas agressif comme comme ambiance. Et en plus, enfin, ce qui est cool, c'est que ça permet de, à titre professionnel, hein, ça permet de rencontrer tous les Français qui travaillent dans le jeu vidéo au Japon.
Ça, c'est bien.
Et ils sont nombreux. Ils sont dans des secteurs et dans des entreprises variées. Et c'est cool de pouvoir échanger avec les Français qui vivent là-bas.
T'as vu Nicolas Doucet ou pas?
Bah non, j'aurais bien aimé, mais je l'ai pas croisé. Je l'ai cherché hein, sur le stand de Sony. Ouais. Mais ouais, Nico, si tu nous regardes,
c'est
mon pote.
Salut mon pote.
Et non, j'aurais bien aimé le voir, mais je ne l'ai pas vu.
Ça marche.
Et est-ce que tu as croisé la personne la plus importante du monde pour Gameblog?
Takenobu Mitsuyoshi.
Bah oui.
Non, j'ai pas croisé. Et lui aussi, je l'ai cherché.
Oh là là.
Allez, je l'ai cherché.
Il était pas derrière un piano quelque part?
Non.
Il était pas avec une Dreamcast sur le dos?
Non, mais ça sera comment dire, la quête perpétuelle.
Oh là là.
Il continuera de chercher Takenobu Mitsuyoshi. Le pire, c'est qu'il est tellement sociable, donc il accepte sans problème de parler avec toi, de fredonner et tout. Mais là, je l'ai pas vu malheureusement. Mais on l'aura un jour. J'en suis sûr. Et autre chose que j'ai remarqué aussi, bah, c'est qu'on est clair. Ça se ressentait à l'E3, ça se ressentait visiblement à la Gamescom aussi, et là ça se ressentait au TGS. On est en fin de génération. On est clairement l'année avant la sortie des nouvelles consoles. Parce que, on va dire, en termes de contenu, c'était pas forcément le salon le plus folichon de l'histoire.
Quand même. Et justement, et pourtant, tu parles de contenu.
Il y a des grosses cartouches.
Il y avait des gros trucs.
À commencer par.
De quoi?
Death Stranding.
Ah bah, oui, mais alors Death Stranding, grosse cartouche effectivement.
Bah,
mais
c'est le jeu que tout le monde attendait.
Oui, mais cartouche semi-présente sur le salon, parce qu'effectivement il y avait des présentations sur scène avec Hideo Kojima où il y a eu beaucoup de grosses démos de gameplay.
Là, il y a eu quasiment 2 heures de présentation au total,
ouais,
je crois.
Oui.
Mais
réparti sur trois séquences différentes.
Mais le jeu était pas jouable.
Et alors c'est pas grave, tu joueras quand il sortira.
Non, mais c'est quand même super. C'est quand même super curieux que à un mois et demi de la sortie du jeu. On n'est toujours pas pu mettre la main dessus, quoi.
Alors, je vais me faire l'avocat du diable, j'y crois pas beaucoup.
L'avocat de Kojima, tu veux dire?
Ouais, exactement. Le discours officiel, quand il nous a présenté le jeu pour la première fois, c'est les images que vous diffuse Poufy actuellement, où on a eu une longue séquence montée d'une cinquantaine de minutes de gameplay.
Kojima a préparé lui-même, d'après ce qu'il disait.
Oui, a préparé, monté et commenté sur la scène du TGS. Ouais. Et visiblement, le fait que les joueurs, en fait, qui seront passés avant toi dans tel ou tel environnement, vont pouvoir laisser tomber des items, installer des espèces de petites bases qui vont pouvoir customiser avec de la musique, etc. Et l'idée, c'est de se dire que c'est un jeu entre guillemets communautaire, puisque tu vas voir en fait les objets laissés sur leur passage par les gens qui sont passés avant toi.
Tu peux même laisser
en fait
des messages, d'après ce que j'ai compris,
oui,
en disant ici j'ai besoin par exemple d'une échelle. Et voilà, deux jours après, tu reviens et quelqu'un éventuellement t'en aura laissé une.
Ou peut-être faire des pièges à la Dark Souls, tu sais.
C'est exactement ce qu'on disait avec Johnny One, c'est le côté Dark Souls. Alors, j'ose espérer que les joueurs sont peut-être un peu plus bienveillants que vas-y, prends à droite, tu vas voir, il y a un super truc.
Super
et tu tombes dans un trou et tu meurs. Non, mais on pouvait voir dans cette démo que, bah, par exemple, justement, les échelles que tu utilisais pour monter à tel ou tel endroit, des fois étaient visibles en transparent, en fait, pour te montrer que quelqu'un est passé par ici avant, est allé là-bas. Et t'as aussi les traces de pas qui font que ça peut t'indiquer en fait une trajectoire ou un point d'intérêt. Et on a vu aussi pour la première fois un peu d'action, un peu de combat sur la séquence que vous montrez Poufy, avec quelques affrontements, un tout petit peu d'infiltration avant, clairement à la MGS5, des affrontements contre des humains, et puis cette espèce d'énorme boss qui est censé être un lion, a priori, qui nous fait basculer dans une espèce de dimension parallèle et que Kojima a combattu à coups de grenade.
Ah, je l'ai pas vu moi ça.
Ça ressemble vraiment à un lion.
J'ai pas regardé toute la vidéo hein, pour être honnête. Hein.
Parce que ces derniers temps, Johnny One, je
il met des lions partout, c'est ça.
En fait, il décrit les animaux, mais il arrive pas à trouver le vrai nom. je vais parler.
En fait, je vais lui faire des sessions avec ma fille. Parce que on va prendre les imagiers.
Il a parlé de Monster Hunter il y a pas longtemps en disant on affronte une chèvre, le truc qui ressemble à un cerf avec des putains de grosses cordes. Okay. Là, Nioh 2, il dit on affronte un monstre qui ressemble à un lion, le truc qui ressemble à un cheval. Donc je me pose des questions sur Johnny Wan. Voilà, je voulais juste
faire des sessions imagées avec ma fille et Johnny Wan comme ça.
Ouais, j'ai l'impression qu'il connaît pas trop Fanny Agostini. On va peut-être lui présenter. Il a lui rappellera ce que c'est que la vie dans la nature peut-être. Voilà, c'est une parenthèse à la con.
Bah, tu l'as à l'écran, la créature en question, et c'est Kojima, je crois, qu'il l'a comparé en tout cas à un lion. Bref, on a enfin vu.
Okay, pour c'est moi, c'est pas un lion. Hein.
Ça ne fait pas penser à ça.
On a
mais...
enfin vu des vraies séquences jouables, entre guillemets.
C'est ça qui manquait. Hein,
depuis... Avec aussi quelques moments un peu plus fun, puisqu'on s'est rendu compte que le paquetage que Sam va porter sur son dos, non seulement devra être équilibré, mais qu'aussi à un moment donné, vous pouvez crafter ou acheter des objets. Et là, en l'occurrence, on voit que les paquets en fait, que Sam trimballe sont automatiquement tiré derrière lui avec un espèce de petit pod que vous pouvez en plus utiliser comme un espèce d'overboard, vous amuser avec, etc. Bref, ça a l'air quand même assez ouvert.
C'est un couteau suisse.
Même si en termes de design, on s'en doutait et on le voit, ça reste quand même a priori très 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 japonais.
Et il expliquait aussi que tu pouvais
ah oui, la crinière,
tu pouvais éviter les ennemis.
C'est un lion rasta.
En fait, quand tu fais ta traversée, puisqu'on sait que c'est l'idée derrière Death Stranding, c'est une traversée des États-Unis.
D'une côte à l'autre.
Tu peux aller à l'affrontement avec l'ennemi et ça te permettra presque de faire une avancée plus en ligne droite. Et que si tu veux pas te battre, tu pourras aussi, mais ça te fera prendre des chemins détournés plus compliqués d'accès. En fait, ça sera plus difficile et plus long. D'éviter le combat. En tout cas, avec les francophones, on va dire, Death Stranding faisait beaucoup parler au TGS. Et il y avait de la curiosité, mais t'avais pas une hype incroyable, en fait. Le truc qui revenait souvent, c'était MGS5 avec une échelle, quoi. Ah oui. Il y avait beaucoup de comparaisons avec MGS5. Des gens pas forcément curieux, mais pas forcément impressionnés.
Parce qu'on a beau le voir tourner, on se pose encore beaucoup de questions
Et la manière de communiquer de Kojima au sujet de Death Stranding a pas mal interloqué aussi. Bah oui. Tu vois, le fait qu'on ait toujours pas pu jouer. Et je vais dire, j'ai même parlé avec des gens qui travaillent chez différents éditeurs, pas pour Sony ou Kojima Productions, qui n'arrivaient pas à croire qu'on n'ait pas déjà joué au jeu. En fait, certains pensaient. Vous y avez déjà joué, mais vous êtes sous embargo. Ou alors certains élus y ont déjà joué, mais ils peuvent pas en parler pour l'instant. Et je disais, à ma connaissance, non, vraiment, personne n'y a joué.
Aucun média n'en a parlé en termes de gameplay, etc.
Kojima étant un contrôle freak de très haut niveau, à mon avis, il a fait signer des ND et de cingler à tous les gens qui ont pu y jouer, et ils en parleront jamais, mais genre jamais avant le jour J.
Y a des gens qui ont certainement joué, mais je parle dans les médias.
Médias, je pense qu'il y en a. Hein. Je pense qu'il doit y avoir. Ah oui, il doit y avoir des gens des médias qui ont déjà eu l'occasion de le toucher, mais qui il a dit non, mais regardez, tu vois, tu vas signer ça là, et si jamais tu trahis la confiance que j'ai mise en toi, tu vas me manquer de respect et je vais te latter la gueule et te prendre tout ton argent.
Mais pour le coup, je pense que le silence en matière de gameplay autour de Death Stranding ne vient pas que de Kojima. Je pense que ça doit être parce qu'il y a le plan marketing, on va dire, il est aussi établi par Sony. Et je pense que ça doit venir aussi en partie de Sony. En tout cas, c'était un gros jeu. Tu le voyais sur le stand PlayStation au TGS. Il était très présent, aussi bien via des affiches gigantesques que par les petites statuettes de Mads Mikkelsen, etc. Mais pas de version jouable.
Donc, ouais. Ben voilà pour Death Stranding, donc un grand morceau. On pourra pas vous en redire plus parce qu'on n'y a pas joué, nous, hein. On va pas vous mentir. Mais j'avais cru comprendre qu'effectivement, il y a des choses devaient être prêtes pendant le TGS, mais que tout a été annulé au dernier moment. Pour X et Y raison, donc. Effectivement, c'est venu de plus haut, pour ce que j'ai compris, mais bon. Je pourrais pas vous donner de détails parce que je connais pas les détails, donc. Voilà, peut-être que.
En tout cas, on ne sait pas tout. Il se passe des trucs qu'on nous dit pas. Hein.
Effectivement.
Mais ça sera le
mystère, on verra. Ça soulevait
plein d'interrogations aussi bien chez les joueurs que chez les médias, que chez les. Pas les concurrents, mais chez les autres membres de l'industrie.
Bah, le seul moyen de savoir de quoi il en retourne, c'est de revenir à l'époque de MGS2. Puisque MGS2, il y a plein de choses qu'on savait pas avant d'y jouer.
Et il y a eu plein de surprises à chaque fois.
Et il y a eu une grosse surprise pour MGS2.
Oui, mais il y avait quand même eu la possibilité de l'essayer.
On a eu la démo, mais c'est vrai qu'avec pour tout le reste, tout ce qui venait ensuite, on savait rien du tout. Et je sais pas comment ça s'est passé à l'époque, j'étais pas encore avec vous.
Tout ce qu'on voit depuis le début, c'est la première heure de jeu, il se transforme en party game coloré au bout d'une heure et demie de jeu.
Bah, ce sera du Kojima. Hein.
Ça va être un jeu de baston et c'est tout.
Ouais, c'est
ce qui s'est passé.
Un jeu de baston.
Il sort quand exactement déjà? 8 novembre.
Le 8 novembre, le même jour que Garfield.
Ah bah ouais, t'as raison. En plus,
non, parce qu'on oublie qui va tuer qui va tuer Death Stranding.
Non, mais tu sais ce qui serait drôle, c'est qu'on fasse une vidéo comparative des différentes features de Garfield.
Bah évidemment, on fera même un comparo graphique qu'on enverra à Digital Foundry pour savoir s'ils peuvent nous l'analyser.
Bien sûr, exactement.
Bah attends.
Les environnements Garfield dans Suisse.
Bah ouais, voilà.
Alors il y avait un autre jeu aussi qui était montré là-bas, si je dis pas de bêtises, c'était Tales of Arise, hein, c'est ça?
Oui,
c'est
un très joli trailer qui a été dévoilé par Bandai Namco qui nous permet d'admirer un petit peu le nouveau design de la série, parce que mine de rien, ça faisait longtemps que la série Tales of avait pas essayé sur le plan graphique.
J'ai l'impression que c'est déjà la même chose, mais Tales of, mais bon, après.
Alors là, en termes de mécanique, on va être sur quelque chose d'encore plus action, avec moins de séparation justement au niveau des combats. En tout cas, on a pu découvrir un petit peu les spécificités des personnages. En tout cas des deux premiers personnages de cet épisode. Et là tu vois, quand on est sur la world map, en l'occurrence il n'y aura plus forcément de démarcation d'écran de combat.
Mais c'est bien ça, ça change.
Et puis visuellement,
il faisait plus dessin animé avant.
Il,
maintenant,
il arrive ouais, quand il même dans sa génération. Voilà, on était sur un style encore un peu cartoon, cel shaded, etc. Ouais. Là, on est sur graphiquement un jeu qui est quand même plus ambitieux. Et il vous a fait de l'effet d'ailleurs, puisque dans les commentaires, vous avez été plusieurs à souligner justement le regain d'intérêt que vous pouviez avoir pour la série des Tales of, qui avait quand même tendance à vachement se reposer sur ses acquis.
Mais je les trouvais beaux, moi, les Tales of.
Oui,
à
mais
oui, beau parce que c'était intéressant.
Pas beaucoup.
Ah oui,
en fait.
Oui, ça c'est autre chose.
Tandis qu'avec celui-ci, on sent qu'ils ont envie de changer quand même un petit peu la formule. Et bah voilà, ce premier vrai trailer officiel qu'on a découvert au TGS en atteste un petit peu.
Et du côté, parce que Tales of c'est Bandai Namco, là aussi changement de manière de faire de Bandai Namco par rapport au TGS précédent, c'est qu'il faut savoir que Bandai Namco habituellement dans les deux jours qui précèdent l'ouverture du salon, ils organisaient un pré-TGS où on allait dans les locaux de Bandai Namco pour essayer leur jeu du salon, tu vois. Et là cette année ils ne l'ont pas fait parce qu'en fait on nous a dit tout simplement que les versions qui seraient présentées ou jouables ce seraient les mêmes qu'à la Gamescom. Donc comme à la Gamescom on les avait déjà vus,
tout à fait,
ouais. Bah ça n'avait aucun intérêt. Et c'est vrai que même moi j'ai été sur le salon et par exemple Dragon Ball Z Kakarot, qui est un des jeux de chez Bandai Namco qui m'intéresse le plus, bah la démo c'était la même que depuis le 3, quoi. C'était toujours ce combat, enfin au moment du combat entre Goku et Piccolo contre Raditz. Alors qu'ils ont dévoilé plein de nouvelles images de gameplay, des zones totalement différentes, etc. Mais c'était pas,
non,
c'était pas jouable.
C'est là que tu vois qu'ils mettent aussi un peu moins de temps et de moyens sur ce genre de trucs, puisqu'on va passer à la prochaine gen et ça se trouve voilà, leur après, tête est ailleurs maintenant.
Après c'était aussi la première fois que le public japonais pouvait mettre les mains dessus, donc ceci explique d'accord aussi peut-être cela.
Mais quand tu sais que la presse se déplace, tu peux aussi avoir envie de montrer. Même, tu vois, même quitte à ne pas mettre la démo la plus récente sur le salon, mais faire un pré-TGS. Mais visiblement, c'était pas dans leur stratégie de cette année.
Ouais, exactement. Et il y a un autre jeu que quelqu'un ici a vu avant d'aller au TGS. Hein, soyons honnêtes.
C'était un pré-TGS.
Project Resistance, tout à fait. Et c'est toi, Romain, qui a été.
Et là, ce qui m'a étonné, c'est que pour le coup, il était jouable sur le salon. Mais moi, pour ma preview, Project Resistance, j'y ai joué 3 heures à peu
c'est
près.
C'est ça, c'était une bonne condition, quoi.
J'arrive pas à imaginer comment. Oh, ça devait être des sessions d'un quart d'heure sur le stand.
Ouais, comment tu peux avoir un avis
Comment comprendre le concept et tout essayer en un quart d'heure. Surtout que, comme c'est du gameplay asymétrique, pour espérer un peu comprendre ce qu'est Project Resistance, il fallait jouer des deux, jouer des deux côtés.
Ah bah j'ai lu ta preview, elle est hyper complète. Et à la limite c'est presque un test que t'as fait. Donc
ouais, bah parce que le concept est tellement différent expliquer, je voulais expliquer tout le reste. Mais alors je vous avouerai que comme moi j'étais sur place au moment où l'embargo est tombé. Officiellement.
Oui, officiellement.
J'ai pas trop vu les retours des gens sur le jeu.
On va peut-être rappeler ce que c'est pour ceux qui n'auraient pas tout suivi.
Alors en fait, Project Resistance, c'est pas vraiment un jeu à proprement parler.
Non.
C'est un nouveau concept de multijoueur pour Resident. On sait pas trop de quelle manière ça sera proposé au public quand ça sortira. Mais en tout cas, oui, ce sont des parties asymétriques en fait qui opposent une équipe de 4 survivants à un seul mastermind. Et les quatre survivants doivent s'échapper d'un complexe d'Umbrella découpé en trois zones. Et le mastermind, lui, doit leur mettre des bâtons dans les roues, les empêcher de réussir à sortir, en fait, les tuer tout simplement. Et donc le mastermind se déplace de caméra en caméra pour surveiller les survivants.
Et a priori, c'est lui qui a la plus grande chance
Il a un deck de cartes qui permet de mettre des pièges, de balancer des ennemis, etc. Et éventuellement, s'il attend assez, d'incarner Mr. X. Et à l'heure actuelle, enfin moi, ce qui sort de ma session de jeu, c'est que c'est ultra cheaté pour le mastermind.
C'est... Oui, c'est ce que tu disais justement, c'est pour ça que j'étais un peu coupé en disant, mais c'est lui qui a largement la.
C'est le maître du donjon.
C'est impossible.
Mais ça a l'air trop facile.
C'est quasiment impossible pour les survivants de gagner à l'heure actuelle. Sauf si tu tombes sur un mastermind qui découvre le jeu, qui est sur sa première partie.
Tu sais pas du tout comment faire.
Ou qui te laisse gagner. Parce que nous, quand on jouait chez Capcom, la seule partie en tant que survivant qu'on a gagné quand les journalistes jouaient ensemble, c'est quand plus ou moins le RP Europe de Capcom nous a laissé gagner. Une fois qu'il s'est mis à jouer sérieusement, ou que nous, journalistes, nous sommes relayés au poste de mastermind, les survivants n'arrivaient pas à gagner. C'était pas possible.
Et en termes de sensation de jeu, ça se rapproche plus du dernier remake en date ?
Ouais, c'est du. Pour le,
c'est beau, en tout cas, c'est un joli,
pour les 4 survivants, il y a encore du boulot. Hein. Ouais. Enfin, tu vois qu'en fait, ça nous a été présenté très très tôt. Donc il y a encore beaucoup de polish à faire. Il y avait des bugs, etc.
Les persos sont génériques comme c'est même pas permis.
Parce qu'en fait, ce sont des survivants de Raccoon City qui ont été.
C'est des survivants OSEF, quoi.
Parce que ça reste un mode. Oui, mais c'est pas scénarisé en fait. C'est vraiment. Je pense pas que l'intérêt soit.
Oui, voilà, c'est ça. Il y a l'intérêt pas un qui se démarque quelque part. Il faut que ça soit des randoms.
Pas pour l'instant.
Mais t'incarnes des huîtres, quoi.
Des huîtres.
C'est vrai. Après des heures de jeu, je suis pas sorti en me disant j'adore ce perso. J'ai envie de.
Mais c'est pas fait pour, je pense.
D'en faire mon favori. Mais le concept du mastermind est rigolo. En fait, c'est surtout ça qui ressort du truc. Et c'est marrant de pouvoir incarner Mr. X. Parce que là, tu déglingues tout le monde. Si tu le times bien. Parce qu'en fait, il faut pas utiliser tes cartes au mauvais moment. Parce que sinon, t'as pas le temps de les utiliser. En fait, par exemple, si tu décides de lancer Mr. X et d'attendre que les mecs arrivent dans une pièce, comme il a un timer, des chances qu'ils disparaissent avant que les mecs arrivent, tu vois. Donc c'est
quand même assez tactique quelque part.
Ah oui, c'est bien tactique, c'est intéressant, mais ils ont beaucoup de boulot à faire en termes d'équilibrage.
Ça rappelle un peu Night Trap.
Oui, les caméras de surveillance. Voilà, c'était
plus rigolo Night Trap.
C'est pas faux.
T'as essayé qu'une map, toi, tu disais pour l'instant.
Il y avait qu'une seule map. En fait, oui, la map elle était composée en trois zones.
Donc on est à un état relativement peu avancé a priori du développement.
Ah bah je pense clairement, est-ce que on en rigolait avec les autres journalistes français, et je crois que je l'ai dit dans ma preview, c'est qu'on se disait qu'en fait Capcom utilise les journalistes et ceux qui participeront à la bêta fermée comme des testeurs QA, quoi.
Pour faire de l'équilibrage.
Ouais, c'est plutôt que d'engager des gens en interne pour faire ça discretos. Là, en fait, ils ont clairement décidé de jouer carte sur table avec les gens. Et de dire voilà sur quoi on bosse, dites-nous ce que vous n'aimez pas, dites-nous ce que vous aimez, et ils vont. Leur idée, c'est clairement de s'adapter. Tu vois, rien n'est. On sentait bien que rien n'était gravé dans la roche, tu vois. Ils sont prêts à changer
des choses après.
Ils sont prêts à changer des choses s'ils se rendent compte que ça marche pas. Et ils veulent. Ils voulaient pas rester sur leurs acquis. Et ils nous. Il y avait Matt Walker qui était avec nous à Londres. C'est le producteur de Capcom qui travaille à Osaka et qu'on voyait souvent sur les presses de DMC, etc.
Et qui a réagi sur Twitter d'ailleurs par rapport à la grogne des joueurs qui disent ouais, non,
il y a eu de la grogne.
Un multi, on n'en veut pas, merci, allez vous faire foutre, tout ça.
Ouais, mais quand ils vont y jouer, je suis sûr qu'ils vont aimer en fait. Ils vont dire oh, c'est pas mal en fait.
Pas sûr.
Bah tu verras.
Pas sûr. Non mais c'est
nous, quand on va jouer à 4 ici.
La grogne principale c'est pourquoi vous nous prenez un multi alors qu'on attend Resident Evil 3 remake et Resident Evil 8.
Et alors ils peuvent le faire aussi.
Moi je pense. Moi je pense.
Ce qui est pas cohérent quelque part.
Je pense. que on
les
sait
gens
pas.
Pas le clin d'œil à l'audio. Tu sais.
Ah oui, pour la vidéo vous avez raté un clin d'œil. Je pense qu'on ne sait pas tout. Sur
Parce que là, ils parlent d'une expérience pour l'instant concernant ça. Ils
voilà, mais,
pas
nous,
plus.
Mais nous, c'est la première chose qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit attention, Project Resistance n'est pas un jeu. Ça veut dire ce que ça veut dire. Moi, j'ai deux suppositions. C'est que soit ça sera un free to play, et donc là, ça marcherait clairement pas. Parce qu'il n'y a pas assez de durée de vie potentielle sur ce truc-là. Soit, et là, c'est le truc vers lequel je pense plus, ça serait le multi. Qui viendrait avec quelque chose d'autre. D'ailleurs, je le disais dans ma preview, mais et d'après les déclarations qu'il y a eu pendant le TGS, etc., c'est ce vers quoi on tend, clairement. Alors, ça serait le multi de quoi ? À voir. Il faut savoir que ça se passe
de Death Stranding.
Ça se passe plus ou moins en même temps que Resident Evil 2. Resident Evil 2 Remake est déjà sorti. Qu'est-ce qui se passe en même temps que Resident Evil 2 sur une grande partie de l'histoire?
Voilà. Je vois pas. Franchement, moi, je cherche là. Pourtant, je connais bien la série, mais je vois pas.
C'est vrai. Vraiment. Bah, tant pis pour toi, écoute, tu mangeras des nouilles.
En tout cas, moi, j'ai trouvé ça cool qu'ils cherchent à faire. J'ai trouvé ça cool qu'ils cherchent à faire quelque chose d'inédit. Pour le coup, c'est vraiment inédit, ça change. Mais il y a du boulot. Il y a clairement beaucoup de boulot.
Parfait. Bah parfait.
Et j'ai juste avant qu'on passe au reste du planning, parce que il y a un jeu qui n'était pas
qui n'était pas
écrit sur le déroulé. Non, c'est Final Fantasy VII Remake.
Oui. Bah d'ailleurs.
Bah, si, il est totalement dans le déroulé, mais pour Rudy.
Ah pour Rudy.
En fait, c'est les jeux de Rudy.
D'accord. Exactement. Ok, mais c'est en fait c'est pour dire que FF7 Remake c'était peut-être la star du salon.
Ah bah c'est la star pour tout le monde.
Parce qu'il était très présent sur le stand PlayStation et il était aussi très présent logiquement sur le stand Square Enix, mais ce qui était assez ouf, c'est que moi j'ai été voir par curiosité sur le stand Square Enix, le salon était même pas ouvert depuis une heure, ça faisait 40 ou 50 minutes, journée pro hein. Et là je m'approche de la file d'attente pour jouer à FF7 et là le mec se met devant moi, il fait la croix avec les bras
le X de Xbox
pour dire ouais, il fait le X de Xbox pour me dire non mais là on accepte plus personne dans la file d'attente. Je lui ai dit détends-toi mon gars, je suis juste venu voir et prendre une photo etc, mais en fait oui le salon était même pas ouvert depuis une heure qu'ils acceptaient déjà plus personne dans la file d'attente, donc c'était ouf. Et autre chose qui m'a fait halluciner, c'est que pour faire la photo sur la moto de Cloud, il y avait à certains moments plus de 70 minutes d'attente. Tu faisais la queue pour prendre une photo sur une moto.
Mais ils s'en foutent les Japonais, ils font la queue une heure pour boire un bubble tea.
Ils sont tellement habitués.
C'est ça qui est ouf, ils font la queue.
Ils sont disciplinés, habitués, calmes, patients.
Sauf dans le métro.
Ah ouais, ils sont vénères.
Ouais, dans le métro, c'est un peu chacun pour sa gueule.
Bah ils ont raison, il n'y a pas de raison quoi. Que tu prennes leur place.
Mais donc, oui, on reviendra peut-être au moment de Rudy, parce que toi, tu as pu y jouer en plus à FF7 Remake. Mais je voulais dire qu'il était très, très important sur le salon. Voilà.
Exactement. Bah, tu nous en parles alors, du coup
Ah bon, on peut en parler d'FF7 Remake. Voilà, après, moi, j'ai joué à la même démo, voire moins que Thomas lorsqu'il
vite
a été
fait,
à
deux minutes.
J'ai surtout suivi la présentation qui a été faite pour nous le samedi matin. Et je dois avouer que c'était assez. Après ce trailer, ce nouveau trailer encore complètement ouf.
Il envoie bien
ils nous ont gentiment conviés. Franchement, enfin, plus on en voit en fait, plus on a envie d'en voir plus et d'y jouer. La démo déjà m'a énormément rassuré sur le système de combat. Et puis sur la réal, mais la réal on s'en doutait évidemment. Mais à chaque fois qu'on voit des nouveaux trucs, tu te dis mais en fait ça va être un rêve. Ça va être Final Fantasy VII.
Mais c'est un vrai remake. C'est
façon Advent Children, donc avec une réalisation mais complètement dingue. Et en plus de ça, ces cons-là, ils sont capables de nous faire un système de combat qui tient bien. Et en même temps, quand tu vois la présentation donc, dans laquelle on a pu voir un combat contre un boss dans les égouts, je crois que c'est Apps, si je me rappelle, qui est envoyé par Don Corneo, où t'as Tifa et Aerys qui sont avec toi. Toi, tu fais l'invocation d'Ifrit. Ifrit qui, en fait, se bat en même temps que toi. Et toi, tu pourras déclencher une furie à un moment pour qu'il donne un peu plus sur l'ennemi.
Bah
et
ça, quand tu vois que c'est inspiré d'FF12, pour le coup. Ils ont vraiment repris le principe des invocations.
Et quand tu vois que... comment dire, c'est, j'ai oublié le nom du producteur qui est juste en bas.
Kitase.
Voilà, Yoshinori Kitase nous parle de l'ATB. Qui revient en plus le mode classique de combat d'FF7 hein, qui a été intronisé dans FF4 au départ et qui s'est un peu adapté au fur et à mesure, donc avec des jauges de temps qui se remplissent juste pour qu'on arrive au moment où on va enfin pouvoir faire des actions. Mais là cette fois c'est la version classique, donc c'est-à-dire qu'il se passe rien entre temps. Bah, les fans ils peuvent qu'être aux anges quand c'est comme ça. C'est pas possible autrement.
Le wait mode.
Et puis ils vont te faire une version active et une version justement qui pose le temps, à mon avis, histoire d'avoir à peu près.
Mais c'est-à-dire que t'as
tous les moyens de jouer.
T'auras le meilleur des deux quoi. Le mode action pause. Le mode ATB. Enfin, je veux dire, c'est très très bien vu de la part de Square Enix d'avoir voulu contenter tout le monde de ce côté-là. D'autant que vraiment, on en a reparlé dans la vidéo quand on a fait le commentaire de la démo évidemment, mais le système de combat de FF7 Remake, si vraiment chacun des persos est différent et que en face il y a un bestiaire qui est bien calculé par rapport à ça, mais ça peut être un jeu avec une richesse complètement folle aussi, en plus d'avoir tout le background qu'on connaît et qui à mon avis va encore être développé. Et là dans Midgar on va voir des trucs de complètement fou. Enfin, honnêtement, je vois pas comment on peut ne pas être hypé par ce jeu quand on connaît un minimum Final Fantasy, même quand on connaît un minimum le jeu vidéo.
Mic drop, bam.
Non mais ils ont répondu à beaucoup de questions en plus avec le dernier trailer. Oui, Don Corneo, oui les mini-jeux, oui des scènes cultes, oui Cloud qui va se travestir, etc. Enfin, on a vu énormément de choses. C'est des éléments sur lesquels ils avaient volontairement laissé planer le doute pendant très très longtemps. Le fait de se transformer en grenouille pendant un combat, enfin il y a plein de choses.
C'était relou ça, putain.
Délire. Arrête, c'est bien, comme c'est ça que j'ai fini le jeu la première fois.
Bah, en grenouille.
Il y a deux persos morts et une grenouille. Tu peux pas crever, donc je faisais un point de vie tous les tours et puis je l'ai battu comme ça.
Ça t'a pris 6 jours.
Tour, ouais, c'est ça, en fait.
Mais bref, à chaque trailer, à chaque présentation qu'on voit, c'est vrai qu'on en prend quand même plein la tronche et on a plutôt hâte de voir la version finale avec toujours cette interrogation où se terminera le premier épisode.
Que, n'oublions pas que ça sera épisodique, entre guillemets.
Et cross-générationnel, forcément.
Oui, forcément. Et ce qui est marrant avec les Français qui étaient sur place, parce que les FF7 Remake vous avez évidemment beaucoup parlé, et ce qui les amusait, ce qu'ils avaient envie de voir, alors pour le coup moi je leur rappelais sans arrêt que bah non c'est pas pour celui-là, c'est Rouge 13. Ils ont hâte, certains avec qui je parlais avaient hâte de voir Rouge 13 in-game, mais il apparaît plus tard.
Si, il est dans la tour Shinra.
Mais donc, il apparaît pas à Midgard, Rouge 13.
Si, il est dans la tour Shinra, donc comme on l'a vu, c'est justement une des créatures qui est dans la qui est victime du professeur et que tu libères et qui feint en fait l'agressivité pour justement se retourner contre celui qui l'a emprisonné.
Ah, donc, de mémoire, il apparaissait plus tard.
Donc on le verra. Je crois
qu'on le recrute plus tard peut-être.
Voilà, on le recrute plus tard, mais tu le rencontres la première fois dans la tour Shinra.
Ils avaient hâte de voir Rouge 13
avec Hojo.
On a hâte de voir tout le monde, hein. Yuffie, Sid.
Ah non, moi je peux pas Vincent. La voir, Yuffie.
Yuffie est trop mignonne.
Ah, saloperie.
Tu voulais te marier avec elle, je crois, quand t'étais petit.
En plus.
Non, elle pique tout.
C'est vrai ? Bon, ok, alors tant pis. Hein. Bon, voilà, hein, c'est
3 mars 2020.
Sur la FF7, ouais. 3 mars 2020, donc.
Bon, ça va arriver vite, t'inquiète pas.
Ça va arriver super vite, comme la fin du monde. Voilà, donc quel autre jeu dont on peut parler de ce TGS qui a retenu votre attention? Yakuza 7, je crois que toi,
parce que Rudy l'a mis dans son top 3, mais on le garde pour quand. Parce que,
Toi aussi, tu l'as mis dans ton top 3, tu l'as mis en tête.
Oui, non, mais là, comme on est sur Rudy, et Rudy était à fond aussi sur. Pas mal de Français.
Sur Iceborne.
Sur Monster Hunter Iceborne.
Ah oui, le test est paru d'ailleurs.
On l'a testé sur Gameblog.
Qui était clairement une des stars du salon aussi, parce que le stand de Capcom était moitié Monster Hunter, moitié Résistance. Et donc Rudy, avec une hâte, il me disait « Ouais, j'ai envie d'aller jouer à Monster Hunter. » Enfin, ils sont à fond dessus avec d'autres Français. Et la popularité de Monster Hunter ne se dément pas au Japon, et même hors du salon, à Akihabara, par exemple, dans certaines boutiques, plein de trucs promo sur Monster Hunter. Ça reste une série extrêmement populaire au Japon. Et ils sont bien partis avec Monster Hunter Iceborne pour avoir un autre carton sur les.
Ah bah ils ont fait un super lancement encore.
Capcom, ils sont d'une manière générale, ils sont dans une bonne une bonne phase là en ce moment. Ça a été plus compliqué.
Ils exploitent intelligemment les bonnes licences, donc en même temps ça paye. Quoi.
Bah, quand c'est bien fait, oui, voilà, c'est ça.
Et il a plutôt plu hein, chez nous. Johnny a été très satisfait.
Johnny est totalement sous le charme. D'ailleurs, tu vois. Ça, c'est censé être le mouton.
Chèvre, ouais.
La chèvre, ouais, voilà. Ouais. Donc voilà, pour les gens qui voient la vidéo.
Non, mais tout le monde voit la vidéo en fait. On a vu le dire au début, mais tout le monde voit la vidéo maintenant.
Maintenant, tout le monde voit la vidéo.
On dirait plus un book.
Bah, c'est un élan. Un book truc. On dirait un gros élan.
Je sais pas de tête.
Bon, ça par contre, on dirait je sais pas quoi. Mais juste avant.
Bah là, c'est clairement un zèbre.
On dirait Johnny.
Ah oui, c'est vrai, ouais. Ouais, je pensais à. Non, ouais, c'est vrai.
Et enfin, là, un poisson rouge.
Ou un bichon.
Un petit bichon.
C'est des petits biches.
Mais oui, Johnny nous a rendu. Non, mais tu vois, ça c'est.
Ah, bon, je vois un book.
Non, mais c'est
un. Tu connais Harry Potter.
C'est un espèce de cerf gigantesque. Bah,
bon. Oui, c'est des créatures.
Bref, en tout cas, Johnny a rendu le test. Il a trouvé ça extraordinaire, encore une fois. Et voilà. Et donc, on comprend que Rudy aime beaucoup aussi Monster Hunter, le jeu au plus de 13 millions d'exemplaires vendus dans le monde.
C'est vrai?
Voire maintenant 15 millions, puisque l'extension s'est vendue à plus de 2 millions depuis son lancement.
Et puis ils vont te combiner les deux d'ici quelques mois.
World pour en vendre encore Iceborne. 25 millions
sur PS5 et Scarlett.
Par exemple,
Monster Hunter World Complete Edition.
Oh, toi, tu vas vite te calmer.
Remastered 4K.
4K, 8K bientôt, attention, messieurs. Ouais. Messieurs, dames. Eh bien, Romain, je sais pas, t'as le mot de la fin pour le TGS ou tu veux que.
Tu veux regarder des jeux que je retiens.
Tu veux regarder la chauve-souris à l'écran.
Et donc moi mes jeux forcément
ton
le premier
top 3 de l'enfer.
Le premier c'est Yakuza 7, hein, c'est celui sur lequel j'ai rushé.
Je peux pas tomber à la renverse, il y a un dossier derrière là.
Ça aurait pu ne pas me plaire.
C'est vrai.
Parce que comme ce Yakuza 7 passe au tour par tour, et pour le coup c'est vraiment du tour par tour,
il y a pas de tour par tour.
Non, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pas forcément ce que t'attends d'un Yakuza. D'ailleurs, ça, ce changement fait gueuler au Japon, il fait gueuler en Occident. Moi, j'étais plus, j'étais intrigué. Je me suis dit, ça, j'étais ambivalent. Je me dis, ça peut me plaire comme ça peut ne pas me plaire. Je me suis dit, ça se trouve, ça va complètement casser le rythme. Alors oui, ça change le rythme des parties, parce que forcément, tu sais, c'est comme dans un FF, dans un Final Fantasy comme le 7, par exemple, original, hein, quand t'avais un combat aléatoire, t'avais cette sorte de spirale à l'écran, enfin tu sais, de mouvement à l'écran pour indiquer que le combat allait commencer. Bah là c'est pareil en fait, t'es dans la rue, t'as les loubards qui viennent t'embrouiller comme dans les vieux Yakuza, sauf que là plutôt que d'enchaîner direct sur le combat, bah t'as cette spirale, enfin ce mouvement de caméra de vague, et là tu passes sur un combat et là les mecs en fait changent d'apparence. Le mec qui était le loubard lambda maintenant fait 2m50 et il est chauve, ultra bodybuildé. L'autre c'est devenu un ninja. Enfin, en fait, parce que le héros est un fan de Dragon Quest, qu'il nomme explicitement dans le jeu. Hein. Il parle de Dragon Quest.
Dès le premier trailer d'ailleurs, ouais. Il balance le nom.
Et donc il imagine sa vie comme un RPG. Tout est une quête ou tout est un, c'est une aventure de RPG. Donc c'est pour ça que quand il passe en mode baston, eh ben on part en tour par tour avec des ennemis qui ressemblent plus vraiment à ce qu'ils étaient. Et le tour par tour fonctionne bien. Les invocations sont complètement débiles.
C'est pas un truc où t'invoques un clodo qui balance sa mauvaise odeur autour de lui.
En fait, t'as un des.
Il est géant ou pas?
J'ai pas vu cette invocation là, mais il y a un des personnages de ton groupe qui est un clochard effectivement, ouais. Et moi l'attaque que j'ai utilisée c'est qu'il prenait des graines et il jette des graines sur l'ennemi, et là t'as plein de pigeons qui arrivent et qui attaquent le
j'en avais une autre où en fait tu le vois, il saute en l'air, mais genre il saute super haut, et tout d'un coup tu vois il lève sa veste et j'ai l'impression, je crois que c'est ça hein, mais il y a un espèce de nuage violet qui commence à tourner autour de lui,
violet,
qui va s'abattre sur ses ennemis en bas qui font oh comme ça et qui crèvent.
C'est totalement possible, parce que ça va avec le reste. En fait, l'humour de Yakuza est omniprésent. Et tu vois, t'as le système d'invocation. En fait, Ichiban, donc, est le héros, sort son smartphone et là, il pianote furieusement sur son écran. Et c'est là où tu fais les invocations. Et moi, une que j'ai faite, t'as une femme qui tombe du ciel. C'est une cuisinière, en fait, qui tombe. Et là, elle a l'air super vénère. Elle sort son couteau. Donc, tu dis, elle va faire quoi? Elle va attaquer. Et là, en fait, non, elle a tout un plan de travail devant elle. Et elle se met à couper des oignons et des radis, etc. Et ensuite, elle te tend un bol, en fait, c'est une invocation qui te fait regagner de la vie. Ou sinon, tu peux invoquer des homards. Genre, t'as une pluie de homards qui tombe du ciel, okay, et qui se mettent à pincer les ennemis n'importe comment. Alors, en plus de ça, t'as les attaques basiques, etc. Mais la vie continue autour de toi, en fait. T'as les passants qui continuent de marcher, les voitures qui continuent de circuler, etc. Mmh. etc. Et même si effectivement c'est du tour par tour, ça bouge bien, c'est marrant. Et même si c'est une démo tout en japonais, tu comprends très vite comment ça fonctionne. C'est pas du tout perturbant. Alors les japonais seront encore moins perturbés, parce qu'ils ont peut-être encore plus l'habitude et le goût du tour par tour.
Et les codes, ouais.
Donc moi je trouve que c'est sympa, parce qu'en plus t'as toutes les activités annexes, t'as une sorte de Mario Kart like, mais avec l'état d'esprit Yakuza, où tu balances pas des carapaces, tu tires au bazooka, enfin t'as plein de trucs comme ça. T'as le mini-jeu de ramassage des ordures, justement de canettes, justement pour un clodo qui trique, bah tu sais, comme il ramasse les canettes et il échange ça contre des pièces, donc là il fait appel à toi. Donc ça marche bien, c'est marrant, mais pour le coup, je trouve qu'en Occident, c'est presque du suicide, en fait. Parce que bah, tu vois que des séries comme Final Fantasy, des séries comme Final Fantasy se sont totalement éloignées du tour par tour. Et c'est ce qui les a permis d'exploser vraiment. Mmh. C'était populaire en Occident, hein, mais je trouve que ça l'est encore plus depuis que c'est passé un peu en action. Et Yakuza fait le chemin inverse. Ouais. Alors que la série était en train de gagner en popularité chez nous, là, je pense que bah, ça ne va pas l'aider de passer.
Bah moi, à l'inverse, il me sauce, celui-là. Le côté RPG débile et tout me plaît vachement.
Mais le côté débile, il était déjà dans les anciens, en fait.
Oui, mais je pensais pas appliqué au code du JRPG. Moi, j'ai écouté tes impressions quand tu y as joué. J'ai rigolé et je me suis dit, putain, il est en train de me le vendre, là, justement. Ouais. En plus, tu commences
avec... Toi, tu es un type de joueur très particulier. Ouais, tu n'es pas le grand public. T'es hardcore, oui, en plus
comme le Nord.
T'es quand même hardcore et très fan de RPG, etc. Tu vois, t'es pas le grand.
Ouais, mais il y a un public de gyroliste maintenant en Occident. Donc, après la question, c'est est-ce qu'il va être localisé, dans quelle langue? Ouais. C'est toujours les mêmes questions avec les Yakuza, malheureusement.
Ça, j'ai pas eu d'infos. Après, ils voient ça comme un nouveau départ. T'as vu, même le titre en Occident, ils l'ont changé. C'est Yakuza, il est écrit en tout petit. C'est Like a Dragon, qui est en fait. pour ceux qui ne savent pas, au Japon, les Yakuza s'appellent les Ryuga Gotoku. Et Ryuga Gotoku, ça veut dire justement « like a dragon ». Donc en fait, parce que c'est le nom Yakuza était un peu porté comme un boulet depuis des années, c'est qu'en fait, ça avait été trouvé par la vieille équipe marketing de Sega, parce qu'ils disaient « ouais, les GTA, ça cartonne, les jeux de gangsters et tout ». Donc on va dire que Yakuza, c'est un peu notre GTA au Japon, ce que le jeu n'est pas du tout en fait. Et donc, ils se traînaient le nom Yakuza, qui est difficile, bah tu vois, là il est encore un peu là parce que c'est après tant d'années, c'est quand même difficile de le jeter, ouais. etc. Mais ils veulent montrer quand marquer un changement avec avec ce Yakuza 7. Si je devais prendre les paris, je dirais qu'il sera traduit en France, enfin qu'il sera au moins sous-titré en français. Ça m'étonnerait qu'il le soit pas.
Comme à Gondra.
Mais c'est pas garanti et c'est vrai que il va être compliqué à marketer. Mais en tout cas, le potentiel du jeu. Et là, et il a l'air extrêmement riche. Et aussi le côté dans le truc what the fuck, c'est qu'ils ont mis sous licence l'équivalent japonais du Pôle Emploi. Donc je me rappelle plus du nom, mais c'est le vrai nom tel que les gens qui cherchent des emplois au Japon. Et en fait, quand tu y vas, quand tu y vas, en fait, tu choisis ton.
En fait, t'es recruté par les vrais yakuza en vérité.
Non, mais tu changes de job.
Ils sont super
forts.
En fait,
ton changement d'emploi in game correspond à ton changement de classe. Donc, ce qui fait que les tenues du héros vont changer,
évoluent en fonction de
et ses techniques vont changer, etc. En fait,
ça a l'air trop bien.
C'est
ouais,
super,
mais c'est clair,
c'est super,
ça a l'air tellement con.
C'est super travaillé.
Bah, c'est super détaillé.
Super
quoi.
Con. Et pour le coup, autant les après l'annonce, les joueurs japonais étaient super froids. D'ailleurs, le producteur, le réalisateur, tout ça avait fait des séries de tweets pour essayer de se justifier, de s'expliquer, etc. Mais en attendant, là, pendant le salon, il y avait énormément de queues pour jouer à Yakuza. Ouais. Pareil, la file d'attente était fermée assez vite, etc. Jamais moins d'une heure de queue. Et une heure de queue, c'était vraiment genre au tout début de la journée.
Ah ouais.
Après, ça montait beaucoup plus haut. Et au bout d'un moment, ils disaient non, on n'accepte plus.
Non, mais il faut qu'ils se rassurent. Hein. Nous, ils nous ont saucé. Donc, vous inquiétez pas, les gars, tout va bien.
Non, mais ça,
on testera en temps et en heure.
N'écoutez pas les pistes froides.
Ça a l'air très marrant. En plus, c'est une nouvelle ville. Alors Kamurocho sera aussi là à un moment ou à un autre de l'histoire, parce que c'est un peu la base de Yakuza. Mais la plupart de l'intrigue sera dans une toute nouvelle zone à Yokohama. Enfin, moi, je suis chaud et j'étais. Pourtant, c'était du RPG tout en japonais hein, et j'ai compris tout de suite. Je rigolais en jouant. Enfin, quand l'autre il balance les graines avec les pigeons qui arrivent sur les ennemis ou les homards, les trucs comme ça, c'est tellement con et ça marche.
Omar m'a tué.
Ça marche super fait, bien.
Donc, Omar Simpson, tu la connais.
Yakuza 7, mon top 1 de ce TGS 2019. Deuxième position. Là encore, vous allez être totalement renversé de votre chaise.
Comme c'est étonnant.
Pourtant, j'essaye.
Shenmue 3. Parce que j'ai pu jouer cette fois plus d'un quart d'heure. Donc là, c'était un peu plus de 3/4 d'heure. Donc j'ai pu vraiment prendre mon temps. J'ai pu faire la démo en entier. J'ai pu aller vraiment fouiller dans les menus. Et je trouvais qu'entre la démo de l'E3 et celle à laquelle j'ai pu jouer, je trouve que ça avait encore un peu évolué techniquement. On est toujours loin des standards AAA de l'époque, mais c'est pas le même budget, c'est pas la même équipe, etc. Mais j'ai trouvé les environnements vraiment charmants, beaux, détaillés, et l'ambiance qui se dégage de ce Shenmue 3 est vraiment canon, quoi, aussi bien musical que dans les bruitages, et ça a l'air encore plus riche en termes de gestion des objets et de ces choses-là que les Shenmue 1 et 2. En termes de gameplay, c'est très proche. Hein. Si vous avez joué à Shenmue 1 et 2, vous savez tout de suite comment diriger le jeu dès que vous prenez la manette en main. Donc pour le coup, oui, ça, c'est peut-être un peu rigide, c'est un peu vieillot à ce niveau-là, mais pour les fans de Shenmue, vous serez en terrain connu. Et donc c'est cool. Et t'es happé par l'histoire, par l'ambiance, etc. Moi, quand j'ai terminé la démo, j'étais un peu frustré parce que j'avais envie de faire progresser continuer de faire progresser l'aventure. Et ça s'annonce bien, quoi. Il y a quand même des bonnes idées. Et d'après ce que j'ai entendu en discutant avec des personnes clairement bien informées, en fait, on surestime la taille de l'équipe de développement de Shenmue 3. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est que ce sont des programmeurs qui sont deux. Et qui sont très talentueux.
Comme nous.
Mais c'était exagéré, mais on m'a dit ils sont trois. Mais c'était une métaphore. Hein. C'était pour exagérer le truc. Mais ils sont très talentueux, mais ils sont repoussés dans leur retranchement par rapport à ce
les mecs qui crunchent depuis le début en fait.
Par rapport à ce qu'on leur permet de faire avec le budget et avec les outils qui leur sont donnés, etc.
Moi je pense qu'il y a un endroit où il va cartonner parce que je vois le nombre de fuckface qu'il y a dans le trailer. Je pense qu'il y a un potentiel pour des mèmes qui va être énorme.
Ah, ils ont des certains personnages.
Bah, ça va devenir une même machine, Shenmue 3.
Certains personnages ont des gueules vraiment improbables. Et Yu Suzuki disait, j'ai fait une news aujourd'hui sur des trucs qu'il a déclaré à IGN Japon pendant le TGS. Il expliquait, et ça concerne pas que Shenmue, hein, ça c'est assez vrai dans tous les jeux. Il expliquait que faire des visages réalistes c'était beaucoup plus simple quand il s'agit de PNJ âgés. Et on voit toujours les personnages ridés sont toujours beaucoup plus même regarde, on se rappelle, je crois que c'était pour la PS2, les motion engine, la démo technique
c'était
ça, visage que tu voyais c'était une personne âgée parce que c'est
avec les rides,
etc. C'est beaucoup plus simple de faire un perso réaliste. Et c'est vrai que dans la démo, moi j'ai remarqué tout de suite que les personnes âgées étaient beaucoup mieux modélisées
que
les enfants ou que les personnages plus les adultes plus jeunes. Donc oui, les animations faciales sont d'un autre temps, certaines modélisations sont un peu risibles.
Mais honnêtement, par rapport au début de ce qu'on a montré,
par rapport au tout début,
c'est comme le jour à la nuit.
Il y a eu de l'évolution, clairement.
C'est la nuit.
Et à l'E3, il y avait peut-être des baisses de framerate, etc. Là, je les ai pas ressentis. Bon, une fois encore, je jouais sur PC. Donc, je serais vraiment curieux de voir ce que ça donnera quand ça tournera sur une PS4 lambda.
Bien fat.
Ouais, voilà, sur les PS4 d'origine. Parce que moi, en plus, j'ai une PS4 Pro. Donc, il faudra aussi essayer sur une PS4 normale pour voir comment ça tourne. Mais sur le PC sur lequel j'ai joué, ça tournait bien. Et tu vois, il expliquait à Yu Suzuki que comme dans Shenmue 1 et 2, la lune, c'est pas une image en fait. C'est un objet modélisé en 3D qui réagit en temps réel au reste, etc. Il y a le souci du détail très suzukien.
Ils ont fait le cycle de la lune
et encore là. Donc il y a quand même un gros potentiel dans Shenmue 3. Mais je pense que les non-fans, ça leur plaira pas. Où ils seront pas.
Bah,
il
faut se mettre dans l'ambiance, il faut aimer le style et voilà. C'est.
Après les fans de Shenmue, je pense qu'ils seront forcément intéressés.
Conquis,
ça je peux pas en.
Bah pour moi c'est comme on dit, c'est du Shenmue. Donc,
oui c'est du Shenmue.
Quand tu vois ça,
je pense très très Shenmue.
Je pense que ça leur plaira. Et ça peut-être plaire aussi aux amoureux de la culture asiatique et plus particulièrement chinoise pour les environnements, la mythologie qui est évoquée, le rapport aux arts martiaux, etc.
C'est ce que j'allais dire, les combats et tout, c'est quand même.
Donc ça peut plaire à ce niveau-là aussi. Mais en tout cas, moi, après mes 45 minutes de jeu, j'avais qu'une envie, c'était de continuer.
C'est de frapper tout le monde dans la rue.
C'était de continuer.
C'était de piquer le PC.
J'ai cherché les petits vieux pour leur demander dans la rue s'ils pouvaient m'enseigner une technique.
La technique de l'homme ivre, tu connais pas? Bah
alors,
voilà.
Alors pour le coup, ils m'ont fait comme dans Yakuza, ils me jetaient des graines pour que je m'en aille, pour que je les laisse tranquille. Mais bon, très bon moment sur Shenmue 3. Et dernier jeu qui m'a bien charmé. Alors là, c'est un titre d'une moindre envergure, mais c'est Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, et plus particulièrement le fameux mode 8 bits qu'on avait vu et qui avait un peu surpris tout le monde quand il a été annoncé dans un trailer. J'ai pu essayer plusieurs des compétitions de ce mode 8 bits. Et ça marche super bien. Autant le jeu en lui-même, quand j'ai essayé avec les motion control à l'E3, ça marchait pas toujours très bien. Peut-être à cause du nombre de Switch réunis dans une zone très restreinte. Mais ça marchait pas toujours très bien. Mais alors là, le mode 8 bits que tu joues à la manette classique, c'est super mignon. L'ambiance est canon parce qu'en plus même les commentaires ils sont façon vieux poste de radio, tu vois, le son est un peu brouillé, un peu étouffé. Visuellement c'est vraiment charmant et on se marre bien quoi.
C'est bourré de références.
Ah c'est tu sais quand tu fais le marathon, non seulement les personnages de Mario et Sonic concourent, mais pas que. T'as aussi les petits animaux que tu libères dans Sonic qui courent avec toi et qui sont des compétiteurs. T'as plein de toads de toutes les couleurs qui courent aussi. Y a plein de références, ça se joue bien, c'est marrant. Je trouve que c'est une super idée.
Moi j'ai envie de jouer qu'à ça en fait.
Bah c'est un peu
non mais c'est vrai.
Non mais sérieusement c'est le truc avec lequel je suis sorti de ma session de jeu. Je dis j'ai envie de rejouer à ça. Et j'ai envie de jouer qu'à ces épreuves-là, quoi. En plus, moi, j'en ai essayé 4, je crois. Et je crois qu'il y en a une dizaine au total. Donc, en fait, ils n'en ont pas fait 2 ou 3 pour le gadget. Tu vois, t'as un mode spécifique.
Tu vois, même dans le décor, tu vois, les panneaux Tokyo 64, tu vois, c'est les vieux jeux, enfin, les vieux jeux olympiques.
Oui, parce qu'en fait,
ils ont vraiment pensé à
les JO 64. Ce mode-là se passe à Tokyo 64. Et c'est pour ça que même les commentaires radio sont étouffés. ça marche bien, c'est rigolo, c'est beau. Enfin, c'était vraiment rafraîchissant et c'était chouette. Alors après, les plus, on va dire, les plus pointilleux diront que les personnages de Sonic sont tirés de l'ère Mega Drive, évidemment, et tandis que les personnages Nintendo sont tirés de l'ère NES. Ouais. Alors que pour plus d'équité, ils auraient pu ressortir les personnages de Mario de la Super NES.
Je me suis fait la même réflexion, mais franchement, avoir les trailers, c'est pas choquant. Ça
moi,
maintenant,
là, quand je l'ai vu, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est pas la même époque quand même. Mais bon.
Mais c'est un détail, ça marche bien, bien malgré tout.
C'est pas très grave.
C'est cool, et donc j'ai hâte d'essayer les autres épreuves et de voir comment ça s'intègre, parce qu'il y a une campagne, enfin, il y a un mode histoire dans le jeu. J'ai hâte de voir comment ça s'intègre au reste. En tout cas, c'est une vraie bonne idée et c'était vraiment agréable
à
jouer.
Kiffer, ouais. Tout à fait.
Très, puis très cool. Arrive très vite en même temps que Death Stranding. Donc,
oui, ça arrive bien.
On va vite pouvoir jouer sur Garfield. Et donc, évidemment, Garfield Kart Racing.
Bon, en novembre, Shenmue 3, 19 novembre. Celui-ci, le 8 novembre, c'est ça pareil que Death Stranding, 8 novembre.
Non, mais laisse tomber la fin d'année.
En novembre, il y aura quand même pas mal de trucs.
La fin d'année, là.
Donc ça veut dire qu'en octobre, il y aura quasiment tous les tests.
Et moi, j'ai un bébé qui arrive en plus, donc ça va être...
Bah, tu le feras jouer.
Il arrive le 8 novembre aussi.
Ne me méprenez pas, je suis ravi que mon bébé arrive, mais...
Oh, le chieur,
il va m'empêcher de jouer, etc. Mais ouais, ça va être compliqué.
Tu le feras jouer tout de suite, et puis voilà, comme ça sera du vivant.
Techniquement, il doit arriver dans la première semaine de novembre, mais il pourrait arriver... Il peut potentiellement arriver un peu avant aussi, donc...
D'accord. Bah écoute,
c'est Garfield.
Et si c'est comme sa grande sœur, il arrivera une semaine en retard.
On verra.
On sait pas. Il y a plein de possibilités. La date de sortie n'a pas encore été annoncée.
Sortie, voilà. A été repoussée. Eh bien, Farpay. Bah voilà pour ce TGS 2019. Hein, c'était quand même.
C'était un
flux pas trop mauvais, pardon.
Mais c'était chouette. C'était chouette à couvrir sur place. Vraiment.
Oui, bah ouais, du coup, c'était ta première.
D'autant qu'en plus.
Et puis merci à Rudy et tous les Français.
Vous avez pu aller essayer d'autres trucs en plus à côté, notamment Mazaria.
C'est vrai, ouais. Quitte à être sur place, autant faire des choses qu'on ne peut faire que là-bas. L'expérience en réalité virtuelle de Resident Evil, la toute nouvelle qu'on a essayé. Les impressions sont sur le site. Et on a aussi été à la nouvelle salle de VR de Bandai Namco, parce qu'avant, ils en avaient une à Shinjuku. Ils l'ont fermée, ils l'ont déplacée. Il y a certaines expériences comme Mario Kart. Qui sont toujours là, mais Mario Kart, nous on l'avait jamais testé sur le site, donc on en a profité et on en a essayé d'autres nouvelles. D'ailleurs, Taiko no Tatsujin en VR, c'est super cool. Galaga, ça marche vachement bien.
Rudy a adoré Galaga.
On les a toutes essayées tous les deux, mais on s'est répartis les plateaux. Et Galaga, franchement, c'est cool et ça m'a fait me dire, j'avais jamais pensé à ça, me dire que le shoot 'em up. En fait, c'est un genre que tu peux réinventer grâce à la VR. Parce que tu sais, quand on voit un shoot 'em up classique avec le vaisseau qui part de bas en haut avec les niveaux et les tirs d'ennemis qui vont dans
tous les
sens.
Tu peux te faire shooter par derrière et tout ça, machin, te retourner.
Tu dis qu'en fait, comme dans Galaga, là, en VR, il y a des moments où c'était vraiment plusieurs centaines d'ennemis qui étaient à l'écran en même temps. Donc, ce côté action. Dans tous les sens, les ennemis, les tirs un peu qui vont dans tous les sens, qui arrivent de haut en bas. Toi, pareil, tu dois tirer en bas, en haut, sur les côtés, etc. Ça peut donner un nouveau... un nouveau dérivé du shoot 'em up, en fait. Je trouve que c'est un truc qui n'a pas encore été beaucoup exploité et que Galaga montre comme étant possible, en fait. Je pense qu'il y a des idées... Pour les développeurs de shoot 'em up, il y a des idées à tirer de ça. Donc c'était intéressant et visuellement c'était super chouette.
D'accord. Attends, juste un autre truc dont je voulais que tu parles aussi avant de clore le sujet TGS, c'est le PES 2020 en VR. Non, c'est en VR, c'est ça.
C'est une application.
Parce que visiblement tu t'en.
Ouais, c'était rigolo.
Ça vachement sympa.
C'était une. Ça a attiré l'attention parce que tu voyais tous ces gens autour d'une table avec une tablette, etc. Donc c'est pour ça que j'ai été faire la queue pour essayer. Et en fait, ça va être une mise à jour gratuite. Alors, pas de date de sortie pour l'instant parce qu'ils sont encore vraiment en train de développer le truc, de l'application PES qui existe déjà sur iOS et Android. Et en fait, ça se découpe en deux modes. T'as un mode spectateur où là tu suis un match de foot en déplaçant la caméra, en fait. C'est toi qui sur le plan de jeu. Mais si tu veux, et moi c'est ce que j'ai essayé parce que tant qu'à faire, autant qu'il y ait du gameplay, tu vois, tu peux jouer un match comme ça en réalité augmentée. Côté gauche de l'écran, tu déplaces. Côté droit, tu fais les actions, passes en faisant des slides comme ça vers le joueur que tu vises. Tu double tapes pour tirer. Mais c'est super sportif. Bon, là, en plus, c'était des iPad Pro gigantesques qu'on avait.
Donc c'était un peu sport, mais ouais, il faut toujours garder, il faut toujours te déplacer pour garder la balle à l'écran, parce que t'as pas le réflexe hein, quand tu es habitué à des jeux classiques. Il y a des moments où j'étais là, merde, il est où le le ballon quoi. Et en fait l'action compte, même si toi tu suis pas, l'action continue en fait. Donc faut déplacer le truc pour essayer de
matérialiser l'écran à chaque fois.
Ouais, t'es la caméra quoi. Il faut continuer de
suivre l'action à chaque fois.
Et en plus bon là. On était à moitié en situation parce que la table, c'était un peu en termes de couleur, elle était un peu comme la table du podcast là. Donc c'était, on va dire, pour favoriser la visibilité. Mais quand tu seras chez toi, en gros, tu auras ta table où tu manges. Et bah, les joueurs seront en train de jouer sur ta table en fait. Et c'est ça qui est potentiellement rigolo, ou sur ton lit, ou sur ton tapis, ou
dans tes chiottes,
comme ça. Oui, dans tes chiottes. Donc ça peut donner des trucs un peu cocasses. Et c'est rigolo. Alors évidemment, le gameplay est simplifié. La preuve, moi j'ai réussi à jouer. Hein. Je suis pas un joueur de jeu de foot.
Oh, t'es un spécialiste maintenant.
Ah bah maintenant, oui, grâce à ça. Non, mais ça, c'est rigolo. C'est vrai, c'est gadget. Hein.
Ouais.
Ça va.
Non, mais ça mérite d'exister.
Vous allez pas laisser sympa. De côté votre eFootball PES 2020. Mais voilà. C'est un petit gadget, un petit gadget rigolo. Et quand t'as des amis chez toi ou de la famille, pour les faire rigoler 5 minutes, c'est gratuit. Donc à partir du moment où c'est pas payant,
à partir de
c'est
là,
difficile de c'est difficile de gueuler quoi. Non, t'es nul. Et ça se fait pas au détriment du reste. Ah, c'est juste un truc en plus qui fonctionne bien. Enfin, ça fonctionnait déjà bien. Il y avait juste des petites téléportations par moment, mais le développeur qui m'a fait la présentation me disait bien, on est encore en train de bosser dessus, la preuve, on n'a pas de date de sortie, donc
il vaut mieux l'avoir avec une tablette plutôt qu'un téléphone, j'imagine.
Oui et non, parce que d'un côté la tablette a une meilleure visibilité, mais c'est beaucoup plus physique, parce qu'il faut vraiment bouger en permanence. Mais c'est vrai que sur le smartphone, ça sera plus simple à tenir.
Mais tu verras un peu moins bien.
Mais tu verras moins bien, parce qu'en plus, tu peux évidemment avoir une vue très très aérienne. Mais si tu le souhaites,
ah oui, tu peux zoomer carrément.
Tu peux te rapprocher des joueurs. Mais alors, par contre, si tu te rapproches, il va falloir bouger beaucoup plus.
Ouais, c'est ça.
Parce que les joueurs sortiront beaucoup plus facilement de ton champ de vision. Mais c'est intriguant et c'était rigolo à jouer.
Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour ce TGS. Le prochain TGS, ce sera Plume, je crois, qui ira.
Non.
Ou Thomas.
Ah, moi je veux bien y retourner.
Ou Poufy.
Ah ouais, tiens.
on verra ça en temps et en heure. Ça marche. Bah voilà, hein, c'est si vous voulez regarder toutes les vidéos d'impression, etc., bah, tout est sur le site.
Plus les à côté, les vlogs, etc. Voilà, parce que mine de rien, dans les vlogs, ça se ressent pas forcément sur les titres des trucs, parce que je voyais beaucoup de choses à chaque fois. Enfin, il y a beaucoup de. J'ai montré beaucoup d'endroits dans chaque vlog, donc n'hésitez pas à fouiller, parce que vous verrez peut-être des trucs, trucs qui vous intéressent.
C'est plutôt bien fourni. Ce qui nous amène maintenant au thème numéro 2 avec les tests de la semaine, du mois, du jour. Ce qu'on a fait dernièrement, donc je sais pas si Plume il va nous en dire un petit mot.
On va parler très vite de tous les jeux qui ont débarqué là depuis.
Ça commence maintenant tout de suite là.
Depuis le tout début du mois de septembre, on va commencer par Gear 5 évidemment, que Romain a testé. À chaque fois, on va vous envoyer juste vers le test et aussi peut-être vers les lives qu'on a effectués. Gear 5, c'est 8/10 et indispensable.
Attends, plutôt bon TPS, temps, en fait.
Très accessible, très sympathique et surtout très très joli, surtout si vous avez une Xbox One X.
Oui, très très joli.
Évidemment. Borderlands 3, ensuite.
Qu'elle est testée aujourd'hui même par Eva.
Exactement, qu'Eva vient juste de rendre après qu'on ait reçu le jeu la veille de sa sortie. Après qu'on a reçu le jeu la veille de sa sortie, évidemment. Qui lui aussi récolte la note de 8/10. Ça va être un truc, hein. Il y a que des 8/10 quasiment. La note de 8/10, indispensable que Eva lui a attribué. Parce que c'est toujours aussi con et aussi amusant.
Malgré quelques petits défauts, évidemment.
Comme à chaque fois, de toute façon. Sayonara Wild Hearts, qui est un jeu indé que Thomas a testé, qui est un peu son coup de cœur de la rentrée, un jeu de rythme, mais pas que.
Attends,
avec des phases
plus,
de gameplay différentes et une musique visiblement super bien travaillée.
Super originale.
Et ça a l'air complètement con aussi. Et ça a l'air super
c'est
bien.
C'est pas con du tout. C'est délirant dans tous les sens. Matez le trailer, vous verrez
tout
de suite.
Moi, j'ai dû jouer, c'est vrai que ça a l'air space. Hein,
regardez le trailer, vous verrez tout de suite si vous accrochez à la musique et au parti pris graphique. Si ça vous paraît cool, foncez. C'est court, mais C'est jouissif, exactement. C'est une super phase.
Automate.
Il y a un peu de Tetsuya Mizuguchi dedans. Enfin, on s'éclate et puis les musiques sont vraiment très chouettes. C'est quelque chose d'assez différent. On n'a pas l'habitude d'avoir des jeux de rythme comme ça. Donc, regardez le trailer. Si vous accrochez, vous pouvez y aller.
Et la typo gothique pour la date de sortie, c'était fait exprès ou quoi?
Ouais.
D'accord, bah je sais pas.
Tout est en gothique.
Le jeu suivant, c'est évidemment un jeu de foot, eFootball PES 2020, dont je ne finirai,
jamais le jeu.
Je n'arrêterai jamais de louer la bande son, évidemment.
Bah tiens,
vendu.
Et donc 8 sur 10, c'est Alix qui s'est occupé du test. Un jeu qui malgré tout maintenant est en train de faire un petit peu débat du côté de sa communauté parce qu'il y a 2-3 trucs qui ne vont pas très très bien. Heureusement, les développeurs sont en train de bosser sur un patch pour la fin octobre. Donc ça devrait s'arranger, mais en attendant, ça reste quand même vachement vachement solide. Gridfall maintenant, qui lui est édité par Focus Interactive, un jeu de Spiders qui a une super direction artistique, plein de bonnes idées, mais malgré tout pas vraiment pas parfait. Il lui manque encore pas mal de choses pour prétendre avoir autre chose que 7 sur 10. C'est Tiger qui s'est occupé du test. On continue avec Hunt Showdown, qui lui est le FPS visiblement coopératif de ces dernières années selon Camille, dans son ambiance un peu Bayou 19e siècle, très spécial, dans lequel en fait on va faire des équipes de 2 personnes vont essayer de buter des gros monstres un peu partout, sauf qu'en même temps il y a d'autres personnes qui, comme dans Sea of Thieves, vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues et de vous choper vos butins en même temps. Donc ça a l'air complètement génial aussi, c'est super beau, c'est Crytek. Personnellement j'aimerais bien avoir le temps d'y jouer, mais c'est pas pour tout de suite. Deux autres jeux de sport ensuite, que ceux qui sont NHL 2K20, donc jeu de hockey qui révolutionne un peu plus la formule, qui est toujours aussi jolie et qui apporte pas mal de petites choses par rapport aux précédentes, ce qui n'est pas vraiment le cas de NBA 2K20, qui lui par contre, bon, on est en fin de gen,
ça se repose un peu sur ses acquis,
il faut aussi parfois essayer de...
Et les microtransactions abused.
Voilà, il y a aussi les microtransactions comme d'habitude, mais ça on choisit ou pas, hein, évidemment de les faire. Le mode carrière a été encore une fois amélioré. Le gameplay lui est peut-être un peu plus porté sur la défensive, mais en attendant Alix aime bien quand même. C'est du 7 sur 10. Et il y a d'autres jeux, hein, Green Hell aussi, qui a été testé par Camille, qui est un jeu de survie visiblement, parce qu'on n'a pas pu l'essayer nous-mêmes, visiblement très réussi et très Cannibal Holocaust comme il aime.
Et Catherine Full Tipeee.
Et Catherine Full Body aussi. Tout ça c'est des 8 sur 10, encore une fois. Et dans les jeux de la rentrée, voilà, évidemment,
un Zelda.
Il y en a un dont on va vous parler un tout petit peu.
On va vous donner la note tout de suite. Non, on n'a pas le droit.
Là, puis on a pas, on l'a même pas de toute façon.
Bon, on s'en fout, on la donne, c'est pas grave.
Mais non, mais arrête, Traz, voyons. On a pu jouer un petit peu en preview à Zelda Link's Awakening, donc pendant quand même pas mal de minutes. Bah, c'est génial, quoi. Je suis désolé, mais enfin, je sais pas ce que je peux dire d'autre, ça a l'air génial. Je vois pas comment ils peuvent faire quelque chose de moins bien. Maintenant qu'on y a joué, à part les petits ralentissements qui sont sur la carte principale, qui est un des gros changements quand même par rapport à l'original, hein, la carte principale extérieure qui n'est plus découpée par cases, ce qui reste le cas des intérieurs. Donc c'est du défilement fluide quand on passe quand on explore le monde extérieur en permanence. Et parfois, effectivement, on a quelques belles chutes de framerate qui sont jamais pendant les moments les plus compliqués, hein. C'est toujours à des moments où on s'y attend pas. J'ai l'impression que parfois c'est des transitions d'écran, comme si ils existaient encore, les écrans qui séparent différentes zones de chaque région. Et ouais, ça fait une petite chute de temps en temps. Alors des fois c'est peut-être aussi parce qu'il y a des effets ou parce qu'il y a trop d'ennemis, mais quand on est dans le feu de l'action, en tout cas j'ai pas senti de ralentissement, que ce soit en mode docké ou en mode TV. C'est toujours aussi beau, franchement c'est extrêmement mignon. L'easy qu'elle tue, le jeu de base était extraordinaire, donc je vois pas pourquoi ils auraient à se sentir mal par rapport à ce qu'il pourra donner sur la fin. Ça sent très très bon, voilà.
Tu crois qu'ils vont réussir à patcher les problèmes de framerate?
Probablement, ouais. Ouais, ce genre de choses qui peuvent...
La Switch peut-être qu'elle est...
Ouais, moi j'ai plutôt cette impression-là. Dès qu'il y a du monde à l'écran, tu sens qu'il tout saute quand même un petit peu... Dans le village, par exemple, dès que t'as beaucoup de monde, dès le début, en fait, tu te rends compte. Moi, je parle du mode portable, en l'occurrence.
Ouais, c'est ça, c'est ce que j'ai. Après, ils ont poussé les boundaries aussi. Donc,
Elles mériteraient d'être peut-être pusher un tout petit peu plus. Ça ne retire rien à la direction artistique et au visuel, non plus vous a fait l'éloge, à raison. Mais voilà, c'est sûr que sur le plan technique, il y a quelques petits trucs.
Il faut séparer la qualité ludique de la qualité technique. Et
ça n'entache pas l'expérience, mais voilà, on est obligé de le voir quand même, et ce dès le début de l'aventure.
De toute façon,
ludiquement, c'est un des meilleurs épisodes qui est jamais paru de Zelda. Et oui, après, s'il y a des ralentissements, c'est certainement pas ça qui va rendre le jeu pourri. Mais alors vraiment. Mais bon, ça, on verra quand on aura l'occasion de le tester.
Exactement.
Voilà. Et ça, on sait pas quand est-ce qu'on aura la version test.
Je sais pas,
franchement, j'aimerais rien savoir.
Le jour de la sortie, je pense.
Peut-être
après, ça se trouve. Imagine la Nintendo, ils nous disent non, vous avez pas le droit, on peut l'acheter. Non.
Attends,
vous l'achetez encore? Non plus. Non. Attendez, je l'ai. Non. Mais là, tu peux pas l'avoir.
T'es pas du genre à te faire des films, toi, comme mec?
Non, jamais.
Il y a un truc que vous avez pas mentionné dans la liste. C'est pas un test à proprement parler, mais je suis obligé d'en parler pendant 30 secondes.
Oh, parle pas de Tintin, ma fille fait une obsession sur Tintin.
C'est génial, Tintin.
Quand ça fait 6 mois que tu te regardes les aventures de Tintin en boucle à la maison,
sapristi. Carrément, ouais.
C'est très bien, Tintin.
Non, moi, c'est pas de Tintin dont je voulais vous parler, mais juste le chapitre 9 de Céleste est enfin sorti. On l'a attendu pendant très longtemps. Et du coup, maintenant, il est dispo. Donc, si vous n'avez pas relancé le jeu depuis un moment, allez-y. Qu'est-ce que vous attendez?
Je revends ma Polo au passage. Non, je plaisante.
Si vous voulez.
Non, mais fallait le dire.
Non, mais t'as raison.
Même Poufy a relancé le jeu. Et en plus, ce touriste ne l'avait pas terminé complètement. Du coup, il pouvait pas accéder au chapitre 9.
Je crois que c'est pas un vrai.
Mais est-ce que Céleste a une aussi bonne BO que eFootball PES 2020?
Je
ne pense pas.
Elle est bien meilleure, évidemment.
Oh, je ne pense pas.
Et si on passait à l'anniversaire,
il y avait une grosse photo de toi sur le stand PES au TGS.
De quoi?
Tu apparaissais en grand sur les écrans. Les écrans du
TGS. Avec des cœurs dans les yeux.
Featuring music from Plume's cousin. Plume's nephew.
Nephew, Tipeee, ok. Et si on passait à l'anniversaire, au lieu de dire n'importe quoi?
Je sais pas, c'est toi qui décides de toute
c'est
façon.
Donc anniversaire alors, je sais pas.
Ne demande pas notre avis.
Et quel anniversaire?
Non, je veux juste vous demander le calme en fait. Et de vous taire.
D'habitude, tu nous insultes quand c'est comme ça, mais faut pas que t'hésites.
Tu connais Picsou ou pas? Bah voilà. Qui c'est qui va nous en parler?
Tu connais les fins à la Picsou ou pas?
Ouais, exactement, c'est moi qui l'ai inventé.
Et ouais, c'est l'anniversaire de la semaine. De DuckTales.
Exactement.
Qu'on connaît plus sous le nom de la bande à Picsou chez nous. Donc, qui est une adaptation vidéoludique de la série animée qui était sortie en 87. Mais qui est.
Exact.
Qui est ressortie aussi il n'y a pas très longtemps dans une super version.
Ouais, que j'ai fini d'ailleurs. Je sais pas comment, mais j'ai fini.
Qui est super chouette. C'est un lecteur qui.
Génial à l'époque, génial maintenant.
Ouais. Mais c'est pas gagné à la base et pourtant, voilà.
Tout à fait.
Et à l'époque, c'était la première vraie collaboration entre Capcom et Disney. Capcom avait déjà édité un jeu juste avant.
Mais pas Tic et Tac avant?
Non, Chip and Dale est sorti après.
C'était
vraiment une première. Et que vous dire d'autre que le jeu est fantastique. On a 5 mondes différents dans lesquels il va falloir battre des boss qui étaient emblématiques de la série animée. On retrouve évidemment Mystique, on retrouvait ce vieux Gripsou.
Et les Raptou, tu connais ou pas?
Oui, il y avait les Raptou aussi, c'est vrai. Des musiques incroyables, évidemment. On va citer le thème de la Lune.
Je crois que quand tu parles du jeu DuckTales à quelqu'un, je crois que le thème de la lune, c'est la première chose à laquelle tout le monde.
Je crois que c'est un des thèmes les plus connus du jeu vidéo.
Ouais.
Et d'ailleurs, il avait filé pas mal de fil à retordre à Jack Kaufman quand il avait dû réorchestrer les musiques du remaster qui était sorti lui en 2013 et qui a refait parler de lui il n'y a pas très longtemps, puisque au mois d'août, le 7 août très précisément, on vous reparlait justement de DuckTales, puisque la version remastered a été supprimée en fait de toutes les plateformes de téléchargement. Alors si vous l'aviez déjà acheté, vous pouvez toujours le retélécharger. Si vous ne l'aviez pas acheté, vous l'avez
Dans l'os,
ouais.
Évidemment,
exactement.
Les versions physiques ont commencé à
augmenter
en valeur.
En tout cas, voilà, c'était une très bonne idée de Disney de demander à Capcom justement de faire quelque chose qu'ils savaient très bien faire, c'est-à-dire un super jeu vidéo qui est toujours super chouette. On l'avait refait, mon cher Traz, dans un super rétro Prime Turbo il y a pas très longtemps, et ça reste un très grand jeu qui a en plus inspiré notamment Shovel Knight. Excusez du peu.
Ok, on t'excuse.
Donc très bon anniversaire, mon cher Scrooge.
Exactement. Flagada.
Ouais, Flagada Jones, l'as du désert.
Tout à fait. Donc 89, ça fait 30 ans donc.
14 septembre 89.
Aux États-Unis, sachant que le jeu était sorti d'abord aux États-Unis, puis ensuite en
Exactement.
Europe, et les Japonais étaient pour le coup les derniers servis.
Pour une fois.
Et ouais.
Parfait pour cet anniversaire, merci beaucoup. Et si on passait tout de suite au hors-jeu, par exemple, avec Plume?
Ouais, on peut parler effectivement du hors-jeu de la semaine.
T'es hors-jeu,
Le hors-jeu de la semaine se trouve non pas sur Netflix, c'est rare hein,
pour une fois
un truc Netflix. Non, c'est sur Amazon Prime Video que vous pouvez regarder maintenant et tout de suite une série qui s'appelle The Boys. Derrière ce nom se cache en fait une série de super-héros qui est très très spéciale. C'est pas du tout ce que vous connaissez avec DC Comics ou avec Marvel. On est vraiment dans un univers sombre, cynique, dégueulasse, où les super-héros sont vus sous un autre angle. Alors derrière le scénario de The Boys, qui est une adaptation d'un comics, on trouve Garth Ennis. Garth Ennis, c'est le scénariste notamment de Preacher. Donc si vous connaissez un peu Preacher, vous connaissez un peu la façon dont est articulé le cerveau de ce monsieur. C'est-à-dire qu'il est complètement barré, qui va vous mettre des trucs et dans des situations bien gore, bien trash, bien vulgos, diront aussi certaines personnes qui n'apprécient pas forcément ce type d'humour ou ce type de situation. Mais en attendant, il y a une vraie une vraie critique des puissants en fait dans la société américaine sous le prisme des super-héros. Imaginez un petit peu les super-héros qu'on voit comme étant des personnes lisses, des saints en fait qui sont là pour protéger la veuve et l'orphelin
et le système
et ils sont là pour ça normalement, mais en fait quand t'as du pouvoir, peut-être que tu t'autorises des choses que tu ne pourrais pas faire si t'étais en bas. C'est exactement ce que montre The Boys à travers les destins d'un humain normal, Yui, qui va essayer de se lancer dans une quête de vengeance un peu vaine vis-à-vis d'un des membres d'un club qui s'appelle les 7, qui sont les 7 super-héros les plus puissants de la planète, qui ont derrière eux en plus une espèce de machine à thunes semblable à Marvel, qui essaye d'organiser un petit peu leur image comme il faut. Donc Yui essaye de se lancer dans cette quête de vengeance. Il va être rejoint par un personnage incarné par Karl Urban, fantastique Karl Urban, dont on ne cessera jamais de vanter les talents, qui va venir un petit peu l'aider dans cette entreprise compliquée. On retrouve d'autres acteurs plutôt connus, comme Elizabeth Shue, qui manque beaucoup au cinéma depuis les années 90, et Simon Pegg aussi. Évidemment le britannique chouchou d'Edgar Wright. Tout le monde est là pour faire de cette série un spectacle vraiment complètement déjanté, où on se pose des questions parfois auxquelles on a des réponses parfois à des questions qu'on se posait même pas, notamment par rapport au fait que comment on bute un super-héros qui est invincible. Tu vois, qui est genre à l'extérieur, une balle ricoche sur lui. Comment tu fais ? Et ben, il y a la réponse dans The Boys. Elle est pas très ragoûtante.
L'empoisonne.
Non, tu l'envoies sur le soleil.
Non, mais vous inquiétez pas. Il y a des trucs beaucoup plus radicaux qui existent. Donc voilà,
je vous
la conseille plus que vivement cette série. C'est vraiment un petit boulet de canon dans le paysage,
dans le microcosme
audiovisuel, comme on dit. Ça fait partie des belles surprises de cet été. Donc n'hésitez pas. Et j'ai oublié de parler aussi d'Alexander Starr, qui joue The Homelander, qui est fantastique aussi, de cynisme justement.
Les gentils sont les méchants en fait là-dedans.
Et non, tu mens.
Pas forcément. Il y a aussi la petite Starlight qu'on voit, qui elle est vraiment très naïve, et elle pour le coup est très très gentille. Mais par contre, dans tous les compartiments, tout le monde n'est pas super cool.
Et donc il y a 8 épisodes, c'est ça ?
Et absolument, 8 épisodes qui finissent sur malheureusement un cliffhanger, donc il y aura une saison 2.
Ouais, vu le succès du truc, je pense qu'il y aura une saison 2.
Donc voilà, vous allez forcément kiffer, vous allez kiffer le fait que Frenchy soit pas joué par un vrai français, mais par un mec qui va parler avec l'accent français. Et donc quand tu regardes en VO,
c'est bizarre.
C'est toujours pareil les mecs ils font juste mon ami, et puis tu sais, ils placent juste deux trois mots français comme ça, mais
ça après, rire,
et son accent il est pourri.
Project Resistance, la démo, le mastermind, parce qu'il y aura plusieurs masterminds, et celui de la démo était français, et c'est pareil, c'était un mon ami, bonjour et trucs comme ça, avec un accent mais absolument catastrophique. Et Matt Walker, parce qu'il savait que nous on était tous français, et quand il nous a fait écouter le truc, il grinçait les dents, il a fait je fais oui, bon. Il dit on est au courant que l'accent est très très mauvais, le niveau d'acting dans Project Resistance, c'était
bon. L'acteur qui joue Fatchi est bon, mais c'est vrai que son accent, C'est dommage.
Mais c'est pas comme si on avait. Moi, c'est... j'en avais à l'époque, j'en avais parlé avec Ken Levine de BioShock, parce qu'il y avait un personnage français dans BioShock Infinite et que j'avais vu dans la session preview, etc. Et je lui dis, mais pourquoi? On en a des comédiens français qui parlent anglais.
Ils sont pas assez bons.
Non, mais c'est juste qu'ils se font pas chier. Je lui dis, pourquoi vous prenez, vous continuez? Et je lui dis, pas, c'est pas que vous.
Parce que le public ricain s'en fout de savoir que c'est des vrais français derrière.
C'est les clichés pour les ricains, ils en ont rien à péter.
Surtout, ils veulent des acteurs américains.
Non, mais surtout qu'un français qui parle anglais, il en a un accent. Enfin, on n'aura pas besoin de se forcer pour l'avoir.
Absolument.
Je dis, mais pourquoi vous continuez à prendre des mecs qui ont un accent français qui est pas le vrai en plus?
Parce que tu mets mon ami et ça passe.
Ils ont leurs clichés. Ils ont leur cliché de ce qu'est l'accent français.
Mais
notre accent français, il est très appuyé, certes, mais il est différent de ce que les Américains font quand ils nous imitent.
Ah yes, mon ami. You are right.
You are right.
Bon, enfin bref, The Boys, c'est vraiment super. Et The Boys, c'est de la base. N'hésitez pas, Amazon Prime Vidéo, vous garçons, allez passer du bon temps.
Parfait. Bah écoute, merci Plume. Et sur ces... C'est super belle parole. On va rappeler quand même que donc du coup maintenant le podcast en vidéo est là pour tout le monde. Tout le monde peut le regarder.
Okay. Waouh. Voilà. Même moi.
Même toi si tu veux. Sauf que pour les premiums, heureusement encore, vous n'aurez pas la pub qui s'affiche sur la vidéo.
Et pour les premiums, il sera en HD alors qu'il sera en 480p. Pour
exactement.
Le... pour zoomer pour voir les boutons de plume.
Il sera voilà. En qualité VHS.
Et les cheveux blancs aussi.
Mais surtout mes cheveux blancs. Là,
c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de cheveux blancs, plume. Je trouve ça super bizarre en fait.
Tu veux dire pas du tout.
Je crois que j'en ai plus que toi. Ouais.
Je crois que t'es un vampire. Non, fais voir tes qualités.
Mais arrêtez, les gars.
C'est vrai?
Non, parce qu'il y a une nouvelle rumeur qui est en train de partir. Après le fait que je sois vacancier, maintenant il y a la rumeur que.
Non, c'est pas le fait que
je me teins les cheveux.
Alors, j'ai jamais cru ça. Moi, je pense que. Parce que quelqu'un qui se teint les cheveux, ça se voit.
Oui, ça se voit. J'aurais les cheveux corbeaux sur le reste qui est châtain, ça serait vraiment pourri.
C'est un peu bizarre.
Ça serait génial. Bon.
Bon, ben voilà. On va juste parler un tout petit peu de cette rentrée pour vous expliquer un peu ce qui va arriver. Bon, ça va pas être la révolution totale, hein. Ne vous attendez pas à ça.
Dommage sur les rouges.
Voilà. Ça on n'est pas assez stagé pour vous promettre monts et merveilles. Donc voilà, j'espère que vous allez pas être déçus quand même. Mais on va quand même essayer d'apporter des petites choses à notre niveau, hein. Notamment un espèce de weekly fix qu'on fera chaque semaine. Alors je sais pas si ça sera la semaine prochaine ou celle d'après. Tout dépendra de
cette semaine.
Tout dépendra de Poufi. Non, je voulais pas dire cette semaine, je voulais dire la semaine prochaine ou celle d'après, pardon. Pour être sûr de pouvoir vous la balancer. Donc ça sera.
Attends, je vais réanimer Poufi vite fait.
Une vidéo. une vidéo sur. En gros, le résumé de la semaine, ce qui s'est déroulé, etc. Ce qui s'est passé, les plus grosses news, tout ça, machin. Ou les plus gros tests. Donc voilà, ça sera un petit résumé de la semaine chaque vendredi, normalement, si tout va bien. Ou peut-être le samedi, j'en sais rien, on verra.
Peut-être le dimanche,
ça se passe, voilà.
Le dimanche matin.
Exactement. Il y aura des nouvelles rubriques qu'on préparait depuis longtemps, notamment Thomas sur la musique dans le jeu vidéo. Il en a préparé plein et on les a jamais passées.
Je vois pas de quoi tu veux parler.
Voilà.
Ça fait 2 ans qu'elles dorment.
Voilà, exactement.
On peut donner les noms.
Et
t'en as
préparé un paquet déjà quand même, hein, je crois.
Non,
3.
3. J'en ai 3 mastoc.
À notre échelle, c'est un paquet.
Ouais.
On peut même donner le nom à la limite, comme ça on le dépose, comme ça personne va nous le choper.
Non mais je sais, non mais Poufi qui me dit micro, je voulais pas qu'on entende ce que je dis, c'est tout.
Ah bon, tu voulais pas qu'on entende.
On t'entend quand même.
Ok.
Et donc du coup voilà, ça va arriver aussi. Parce
et
que
ça s'appelle comment?
Vous savez tous que Thomas est un mélomane.
La chance aux chansons, c'est ça.
Et la France a
raison. Non, on va peut-être le dire maintenant, comme ça on va éviter de.
Bah comme ça on dépose le nom.
On va nous piquer le titre.
Ok, vas-y.
Bah vas-y, c'est
ça,
toi, c'est
ça,
toi.
Ça s'appellera l'OST in Translation.
Voilà,
parce que ça parlera des bandes son de certains jeux vidéo qui auront été aléatoirement sélectionnés par moi-même.
Ça déconne pas, hein, sur voilà. Ce jeu de mots là, là.
Tout à
vous
fait.
Vous savez ça.
Il y aura aussi un.
Ça déconne pas, Bunny, même.
Ouais.
Il y aura aussi un PC Digest chaque mois. Donc pareil que pour le weekly, mais chaque mois. Donc toute actualité.
Et PC.
Toute actualité du PC résumée en une vidéo de 5-10 minutes. On verra encore le format. Mais en tout cas, c'est en cours. D'élaboration, on va dire. Et ça sera chaque mois, donc, comme je disais. Et puis, il y aura certainement des nouvelles pastilles vidéo sur.
Bah, c'est des choses si Poufi, on arrive à le réanimer.
Dont on doit encore discuter.
Là, le défibrillateur, je sais pas où il est.
Hein, on doit encore discuter parce qu'on a pas mal d'idées, mais il faut que ça se concrétise et il faut qu'on en choisisse quelques-unes. On peut pas tout faire, c'est pas possible. Voilà.
On peut pas cloner Poufi, non?
Poufi, on va le cloner, il va pouvoir faire plein de choses. Non, mais quand les génériques, les machins seront en route, ça va rouler après. C'est juste que nous, on n'aura plus de vie, mais à part ça, c'est.
Parce qu'il y a aussi le retour de toutes les rubriques habituelles.
Il y a toutes les rubriques habituelles, évidemment. Merci de le rappeler, effectivement.
Et puis ce podcast.
Donc, vers le futur, Super Retro Prime Turbo, le podcast.
Trivia,
voilà. Mais ça fait beaucoup de choses en fait déjà.
Bah oui, mais en fait on fait
trop. Trouver là.
En fait on est foutu là.
Oui, mais sur le Discord ils nous disent toujours vous en faites pas assez, vous devriez faire tel truc.
Vous
là,
pas voilà. Assez. Alors que les mecs c'est des fonctionnaires, ils bossent 3 heures par jour.
Non, je déconne, hein, détendez-vous.
Il y a des gens bien chez les fonctionnaires, tu sais.
C'est vrai ?
Ouais.
Genre ta femme, c'est ça ?
Ouais, par exemple.
Okay. Et voilà, donc c'est voilà ce qui vous attend pour cette saison. Donc on espère que ça va vous plaire et on espère qu'on va réussir à tout faire, surtout.
Bon, après, si on n'arrive pas à tout faire là, il y a la rentrée de janvier. Moi je dis ça, je dis rien.
Putain, c'est lui qui a dit fausse. Fausse.
Moi je dis ça, je dis rien, hein, c'est possible. Après, il y aura la rentrée 2020. Bon,
exactement.
Voilà,
non,
après, il y aura la V4.
On va faire le max pour sortir le plus de choses possible.
Attends, déjà, si on arrive à faire certains rendez-vous en septembre, ça serait beau pour nous.
Ah bah, moi, le weekly fix, j'y tiens. Hein, il faut qu'on le fasse en septembre, ça serait bien. Et pour le reste, bah, ça va venir faire en mesure tout à petit. Mais il y aura des nouveautés.
Il y a des trivia d'écrit. Hein.
Et d'enregistrer.
Et enregistrer.
Et tout à mettre la pression.
Voilà. Bon, bah voilà, il y aura sûrement d'autres surprises qu'on n'a pas encore.
Auquel on n'a pas encore pensé. Voilà.
Sur papier.
Si, on sera les premiers surpris.
Bah, la séquence striptease de Camille, j'avoue, quand j'ai vu le papier, j'y croyais pas trop. Mais...
et pourtant, on l'a testé, ça marche.
Visiblement, avec Poufy, ils en ont tourné quelques-unes. Déjà, il aura une tenue.
Tout seul le week-end ici.
Il aura une tenue de base à chaque fois. Il commencera en armure. Dans d'autres, il sera en joueur de foot. Enfin, c'est assez bizarre.
Ça sera Camille à travers le temps, mais
je m'y attendais pas.
Costumé, en fait.
Il s'est passé beaucoup de choses pendant que j'ai été au TGS.
Ah, t'as pas idée.
T'as pas idée, franchement. Si on te disait tout, franchement, tu repartiras direct au Japon.
Ah, bah, avec plaisir.
Et bien voilà comment se conclut ce podcast numéro 504.
Plein d'espoir.
De la rentrée donc. Avec encore une fois, je le rappelle, la vidéo pour tous à partir de maintenant. S'il
n'y
a, si a pas de bug dans la news au moment où je vous parle, hein, mais normalement ça devrait aller.
C'était une promesse de campagne.
Voilà, hein, exactement. Et on l'a tenue et on y tient et c'est la vie, c'est comme ça. Et bien messieurs, on va se quitter.
En chanson.
Là-dessus.
Allez,
la musique. On va tourner les serviettes.
Et là, t'as Angèle qui rentre et qui chante une chanson.
T'as Patrick Sébastien qui vient et qui fait ouais, je vous kiffe les mecs, vous déchirez tout.
Imagine.
Bah s'il regarde, il peut passer, écoute. Hein.
Bah je.
Je t'adore, phrase.
Je l'invite à.
Mais t'imagines, on casse internet. Le podcast se termine par Patrick Sébastien.
Franchement,
qui
je l'invite à venir à notre podcast.
Qui chante Patrick une Sébastien, chanson.
S'il nous écoute, viens parler de tout et de rien ici. Et des jeux vidéo, mais je sais pas s'il joue en fait.
Qui chante le Great Mighty Pooh de Conker's Bad Fur Day.
Exactement. Bon, allez, on va se quitter là avant de dire n'importe quoi et de faire méga tiep. Et merci Pouffer la technique, pèse sur toi, comme dirait Camille. Et puis on se retrouve prochainement pour un nouveau podcast donc de la rédaction sur l'actu, tout ça machin.
On se retrouvera pas la semaine prochaine, non ?
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Ah bah voilà.
Pour le numéro 505, si tout va bien.
Incroyable.
Bon allez, à plus tard tout le monde, et merci de votre fidélité encore une fois. Ciao, ciao.
Au revoir.
Ouais, salut.